Puis là, ça tourne!
Ça y va!
Salut Pascal!
Hey Yannick!
Content de te voir!
Ben moi aussi, j'ai l'impression que je te vois beaucoup trop ce temps-ci. Ça se dit-tu à quelqu'un qu'on apprécie sensiblement?
Mettons que ma blonde me dit ça, je te vois beaucoup trop ces temps-ci, il y a un message.
Dégage!
Là, toi, t'es ma collègue, tu nous as même affaire, je considère qu'il y a un message.
Oui?
Oui. Mais je peux te laisser... qui pourrait me remplacer ici et être extrêmement efficace?
Oh, c'est long, ça. C'est long.
Je me pose des questions.
C'est long comme réflexion, ça en dit beaucoup.
Max Larouche, peut-être. C'est parce que l'idée, c'est de t'énerver.
Ah, OK.
Ça me prend quelqu'un qui est capable d'aller chercher l'épiderme.
T'sais. Oui, je comprends. Et moi, je dirais les entrailles, parfois. Pas juste l'épiderme.
On pensait pas se rendre jusque-là.
Et mon père, en fin de semaine, qui dit « tape-tu ses nerfs, des fois?
» Il a dit ça?
Oui, je sais que tu le veux de ton bord.
Je l'aime, ton père.
Oui, il a dit... Puis, tu sais, c'est lui aussi qui se questionnait à savoir si notre dualité régulière en était une vraie ou une jouée.
OK.
Puis, ce que j'ai répondu à ça, c'est... Il est attachant.
Attachant?
Oui. Et je pense que tu penses la même chose de moi.
Non, pas du tout. Mais ton père doit penser que tu es attachante aussi.
Moi, ça?
Oui.
Ah, oui. Mon père, c'est la première personne qui rit de moi, qui m'agace, qui creuse dans les défauts, c'est... Aussitôt qu'il y a un public, là, il se dit, elle donne une race aux autres. Moi, je vais aussi le faire.
Tu vas être sa victime.
Mais je le remercie. Je pense que la répartie vient de ça. Toute mon enfance a été...
Tout ça, c'est grâce à lui.
Oui.
Hey, c'est à 14 degrés sur Québec qu'on a actuellement. Certains endroits, il pleut. D'autres, pas encore. Aujourd'hui, il va pleuvoir dans votre secteur, c'est clair.
Oh, il pleuvait ce matin
passant. Maximum de 17 pour ce qui est de ce soir, des nuages. La pluie devrait recommencer tard en soirée. On parle d'un 5 mm. Et là, demain, catastrophe. Ça va nourrir les araignées. On va parler tantôt avec Denis. De la pluie, hauteur entre 10 et 20 mm annoncés pour demain, maximum de 16 degrés. En soirée, de la pluie, minimum de 14. Vendredi, alternance de soleil et nuages, maximum de 21 degrés. Gros chaud aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment ça va virer. La dernière fois, il est passé en studio. Il s'est fâché parce que j'y avais dit que certains lutteurs n'étaient pas toujours en shape. Et là, il avait tenté de s'en prendre à moi. Steven Sullivan va être de passage dans nos studios. Ça a été annoncé pour 11h40? Là?
Moi, il me dit je vais appeler aussitôt que je peux. Fait que d'après moi, ça va être dans quelques minutes parce qu'on vient de commencer le show.
Parce qu'il se présente, là, parce qu'il va se présenter en studio. Ouais. Donc là, moi, j'ai fait mon achat de bananes un matin.
Ah, Yannick.
Pour le nourrir, pour l'attendrir. Et puis, on va voir comment ça va se passer. On va parler de ce fameux combat et de cette carte de lutte qui va avoir lieu vendredi au Centre Horizon. Une super de belle soirée qu'on organise pour la bouchée généreuse qui nous des centaines de familles à chaque semaine. Là-dedans, il y a des enfants. C'est plus de 2000 enfants que la Bouchée généreuse aide à chaque semaine. Puis de notre côté, bien, avec la NSPW, Boulevard, puis Matériaux D, on s'est dit, tiens, on va les aider aussi à notre façon. Donc, il y a 320 billets de vendus à peu près, là, de ce que je comprends. Il reste encore des billets. Pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec Internet, il va y avoir des billets que vous allez pouvoir acheter à la porte au Centre Horizon à 20h vendredi. Ça a été confirmé dans les dernières minutes. Mais sinon, pour réserver vos propres billets, pour être sûr d'en avoir, c'est le point de vente NSPW dans l'onglet recherche. Puis vous allez tomber sur les billets. Ils sont autour de 20$.
Puis je me sens âme charitable. Si jamais vous voulez le lien, 418-971-1021, vous connaissez le texto, vous le savez. Si vous écoutez sur l'app, en plus, il y a un petit téléphone. Je vais vous envoyer le lien dans les prochaines minutes. Fait que si écrivez-moi juste lien lutte. Puis je vous l'envoie.
Et chaque 20$ que vous allez donner va directement à Bouchée généreuse. On ne prend pas une scène là-dessus.
Non, on surveille le portefeuille de Yannick.
Ouais. Puis là, on a-tu... Ben chaud, vas-tu être la barmaid? Là?
Moi, ce qu'on me dit, c'est plutôt la conjointe de Sullivan qui va être derrière le bar.
C'est la conjointe de Steven Sullivan?
Qui pourrait empoisonner les breuvages de ceux qui comptent pour toi.
Là. Ah, OK. Ouais.
Non, mais elle semble bien t'aimer, malheureusement.
Oui, elle m'apprécie. Une vraie femme,
bizarre,
c'est reconnaître un vrai homme.
Arc.
À ça, je vais me
ça commence taire par tôt, la suite. Ça.
Denis Gravel qui va être avec nous aux alentours de midi, sinon vers 12h30, Valérie Gaudreau va être là. Louis Gauthier, notre chroniqueur international, qui va être là aussi.
Jeff Fortin, parce qu'il s'en va sur un point de presse pour la sécurité routière. Fait qu'il va nous faire un petit topo des statistiques en sécurité routière dans Chaudière-Appalaches aussi.
Yes. Sinon, le Canadien, autre victoire par blanchage du Canadien de Montréal hier. Ça a fini quoi? 3-0. Je ne sais pas si tu as écouté le match quand je suis arrivé à la maison. maison hier, j'ai pris la troisième période. Deux buts pour Michael Pezzetta, qui est comme le nouveau Sidney Crosby là, des Pingouins de Pittsburgh. Hier, il a fait un but dans un filet désert, puis il a obtenu la première étoile. C'était très drôle. Pezzetta, qui n'est pas reconnu comme étant un joueur très offensif. Puis Nick Suzuki aussi, qui a marqué. Donc, blanchissage partagé entre Samuel Montembeault et Connor Hughes. Prochain match du Canadien, c'est demain 19h à Toronto. Il y a 8 matchs préparatoires ce soir dans la LNH.
Sérieux, c'est de polluer nos ondes avec des matchs préparatoires. Est-ce que je suis une mauvaise animatrice à la radio si j'ai vraiment de la misère à m'intéresser à ça? Okay, parce que je plaide la curiosité tout le temps d'aller dans des champs où on n'est pas expert. J'ai vraiment voulu continuer ma phrase, mais je la trouve bonne, ta joke.
Voilà.
Mais est-ce que je devrais me forcer?
Ben oui, force-toi un peu. 418-971-1021, 418-971-1021, on me dit qu'il y a quelqu'un sur la ligne 3. Allô, boulevard!
Oui, bonjour.
Bonjour, à qui je parle?
J'aimerais parler à Pascal, c'est Gros Gorille, comme tu l'appelles.
Ah, c'est Steven Sullivan.
Salut, Steven!
T'as pas osé te présenter en studio cette fois-ci? Tu commences-tu à craindre pour vendredi soir?
Pascal, peux-tu dire à ton animateur que je vais répondre seulement à tes questions, puis que non... Je me présente pas en studio parce que je sais pas ce que je ferai à ton animateur.
C'est dommage, t'avais acheté des bananes.
Mais est-ce que... Il décroche pas de ça, hein?
Non, il décroche pas, puis il l'a dit tantôt aussi. Mais je t'ai trouvé bon joueur quand même de t'en acheter dans ton épicerie chez Matériaux Audet, là. Une porte, un marteau, de la corde. C'est-tu une façon d'intimider Yannick ou t'es pas mal confiant justement que t'auras pas besoin de l'intimider puis tu vas gagner, Steven?
Ben, c'était pas de l'intimidation, c'est plus de la projection future parce que c'est ce qui va y arriver vendredi. Je suis confiant et j'espère qu'il est prêt parce que moi, je le suis.
Le gars-là va ressembler à quoi? Il y a 6 combats professionnels de ce que je comprends, puis il va avoir le massacre en fin de soirée. Tu peux-tu nous parler des lutteurs qui vont être là présents?
Oui, ben ça, c'est pour Pascal ce que je vais dire. Alex Silva va être là. Il va affronter Travis Toxic, le champion de la NSPW. Okay. Le championnat par équipe aussi va être en jeu. Star Trek Wrecking Crew va affronter les champions, va affronter les poids-plumes. Lou Farrell et Vlada vont être en action contre les Wonder Boys. Michael Styles sera là contre Michel Plante et Aiden Bright. Puis il va y avoir deux autres combats surprises. Oui.
Ça comprend pas le vote, Steven?
Non, c'est ça, là.
OK.
T'as-tu commencé, Pascal, à établir une stratégie avec gros Steven?
On te l'a pas dit.
Ouais.
Mais nous, ça fait quelques semaines quand même qu'on se parle.
Tu vois?
Puis moi, Yannick, tu le sais que je t'apprécie, mais aussi des moments où tu me fais suer. Fait que je trouve que depuis le début, tu t'es attaqué pour aucune raison à Steven Sullivan. Je suis allée travailler dans les coins, soit dans ton ego par rapport au prochain combat.
OK. Puis là, il y a combien de billets de vendus, Steven Sullivan?
On tourne autour de 330 en ce moment. Là.
330 en ce moment. On peut-tu remplir à pleine capacité? Là? Je sais que le Centre Horizon, c'est assez gros. On peut rentrer combien de monde là-dedans?
À peu près 500-600 personnes. Fait qu'on est capable de monter jusqu'à ça.
Okay. Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui sont pas trop familiers là, avec les internets encore en 2024 et qui préfèrent acheter sur place? Pour les gens qui vont se présenter au Centre Horizon vendredi à 20h, peuvent-tu juste payer leur accès à l'entrée?
Les portes ouvrent à 19h, puis oui, ça va être possible d'acheter des billets sur place.
Okay. T'as-tu commencé à faire des push-ups?
Ah, j'ai commencé ça fait longtemps. Puis là, j'ai une annonce à faire, c'est que tout le monde aime les atémis à la lutte, les fameuses chops.
Ouais.
Pour chaque chop que je vais te donner sur ton beau petit chest.
Des claques, là.
Des claques, là. Des bonnes claques.
Comme t'as fait à Maxime, là.
Ouais, exactement.
Oh, mon Dieu.
Je vais donner 20$ de ma poche, puis j'invite les gens à faire pareil pour chaque claque que je vais te donner.
Impossible.
OK, y a-tu un maximum là-dedans?
20$ de ma poche à la bouchée généreuse.
Donc, pour chaque claque que tu me donnes, puis t'invites les auditeurs à embarquer là-dedans, c'est 20$ à la bouchée généreuse qui va aller. OK.
J'embarque!
Toi aussi, voyons.
Chaque claque que tu vas donner à Yannick, je mets 20$.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait que moi, je peux pas embarquer là-dedans?
Pourquoi?
Ben, parce que je vais y bloquer ces claques-là.
Ben oui. Fait que là, toi, tu fais quoi?
Je vais l'étrangler.
Ah, puis pour étrangler quelqu'un, tu demandes de l'argent aux gens?
Non.
T'as garanti une chose, t'auras pas le temps à débloquer.
Hey, c'est quand même très bon.
Fait que là, ça va se décider ce soir-là. Il y a des gens qui vont pouvoir aller voir les organisateurs dire « Moi, j'embarque 20$ par claque que Sullivan donne à Marceau sur le chess. »
Exactement.
Ça, c'est vraiment ce que j'ai vu, mettons, au stade municipal, quand tu donnais des chops, puis moi, j'étais dans les estrades, puis je les entendais, là.
Exactement.
Ah, c'est caverneux, là.
En haut complètement du stade, puis tu les entendais, c'est ça.
OK.
Yannick, vas-tu être torse nu ce soir-là?
On m'a pas donné le choix. La seule chose que j'ai pas accepté, c'est les bobettes. Ça va être des genres de culottes courtes, là. Mais pour le reste, oui, je vais être torse nu. Là.
OK. S'il y a une marque le lendemain, Steven, j'ajoute un 20$.
Ah, ben, c'est garanti que je vais en avoir.
Hey, je me sens pas fine.
Tu te sens pas bien?
Je me sens pas très fine, mais en même temps, je trouve ça très drôle.
Il y a combien de gens qui vont prendre pour toi dans la place versus pour moi? Tu le sais-tu? Es-tu capable de savoir ça?
Ben, j'ai l'impression que ça va être 50-50. Parce que tu vas avoir tes petits suiveurs, là. Puis il va y avoir les fans de lutte que tu as insulté en disant que les lutteurs, c'est pas des athlètes.
J'ai dit que certains lutteurs manquaient de souffle, incluant le caméraman qui était sur place.
Ah, 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 t'as pas dit ça de même?
Oui.
Non.
Non?
Non. Qu'on me repasse la reprise audio, là. Tu connais le hockey, tu as des reprises vidéo, c'est pas ça partout ce que t'as dit, là. Espèce de malfrat.
OK. Fait que moi, je suis prêt pour vendredi. Je reculerai pas, je te l'ai dit. Ça va être le combat final. Puis je vais tout faire pour montrer aux gens que Steven Sullivan, il est en fin de carrière.
Hey boy. Tant que tu t'es levé tôt.
Je sens qu'il est stressé. T'es-tu stressé, Yannick?
Pas du tout. En fait, mon plus grand stress, c'est d'être en chess devant 300-400 personnes.
Ah, c'est ça ton plus grand stress? Ouais. Tu sais, Steven, quand je te disais de miser sur l'ego de Yannick, là, on focus le mental, on reste là.
Une bonne stratégie, ça.
OK. NSPW, on va chercher nos billets sur lepointdevente.com. On tape dans l'onglet de recherche NSPW, puis on a accès aux billets. C'est 20$. Tout l'argent va directement à la bouchée généreuse. Puis Steven, tu diras merci aux gens de la NSPW. Tu diras merci à ta merveilleuse conjointe d'être au bar ce soir-là, parce qu'il va y avoir effectivement un service de bar. Il va faire soif ce soir-là. Tu diras merci à tous les lutteurs d'avance de ma part qui vont être présents au gala pour la bouchée généreuse. Puis toute ton organisation, ainsi que les gens de matériaux au dé, puis tous les commanditaires qu'on nommera tout à l'heure pour ce qui est du costume. On devrait être aux alentours de 10 000 piastres jusqu'à maintenant
qu'on pourrait
donner aux gens de la bouchée généreuse, aux familles puis aux enfants qui fréquentent la bouchée généreuse. Fait que même si je t'aime pas jusqu'à vendredi, je te remercie d'être présent ce vendredi, à moins que tu choques, là.
C'est impossible que je choque. Je te conseille de te coucher de bonne heure demain soir.
20$ par clap sur le torse de Marceau. Ceux qui veulent embarquer, ben vous allez pouvoir le faire monter ce 10 000$-là juste en entendant Yannick souffrir.
C'est ce qui s'appelle donner son corps à la science.
Ou à la CNSST.
Ouais, c'est ça. Je vais remercier le commanditaire principal de la soirée, la CNSST, de me permettre de faire cette chose magnifique. Merci, Steven Sullivan. Bonne chance pour vendredi. Puis on a la pesée tantôt, si je ne me trompe pas. C'est-tu aujourd'hui la pesée? La pesée est à 14h15. Donc, si vous voulez voir la pesée officielle sur les réseaux sociaux, ce sera à partir de 14h15. Tu essaieras de te contenir cette fois-là.
Je peux pas rien garantir.
Salut!
Salut!
Bye!
Il dit salut, il part.
Salut! Il s'est même pas présenté en studio.
Oui, il s'est sûrement dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour ça, là. Il est très. Honnêtement, il est convaincu que tu risques d'avoir mal le lendemain.
Ouais. Ce que je m'explique mal, c'est que pourquoi tu embarques dans ces patentes de claques sur le chess à coup de 20$? Hein?
Parce que tu me fais souffrir chaque jour, personne ne paye pour.
C'est pour la bouchée généreuse, je peux pas dire non à ça. Puis, si je veux ramasser un pactole d'argent pour eux autres, faut que je laisse passer les claques.
T'es comme, faut que je me fasse claquer. Hey, 20$ la claque, Yannick.
Ouais.
J'espère que ce sera pas 10 000 non plus. Parce que...
Non, mais tu sais, je veux dire, mettons qu'on met un maximum de 40$. C'est correct?
Mais non, ce serait juste deux claques.
Non, mais tu sais, mettons qu'il m'en donne 20. Là. Ouais. Le maximum que vous pourriez sortir de vos poches, c'est 40$ pour la bouchée généreuse. Ou 60. Là. Il décidera ça ce soir-là.
Moi, je suis capable de monter le deal.
Toi, t'es capable.
Dans le sens où, pour te voir souffrir, c'est rare, là, puis c'est pour une bonne cause. Yannick, félicitations de faire ça, malgré tout.
Oui, il y a des idées de même qu'on a. Hein? Oui!
Oui, jusqu'à temps que ça arrive.
Laisse-moi y réfléchir 10 secondes. Ouais, c'est beau.
On va le faire.
Non, ben. Hey, dans l'actualité, on jase de quoi, Mme Pascal?
Un ado qui s'est livré aux policiers après le braquage d'un dépanneur il y a quelques heures. On a su que c'est un jeune de 16 ans. Il a fait un vol qualifié dans l'arrondissement de Charlebourg. Puis lui-même, il est allé voir les autorités hier soir. C'était après 2 heures suite à son délit. Là. Ça a été commis vers 19 heures, ce vol qualifié-là. Il aurait menacé le commis avec une arme blanche. Il a exigé le contenu de la caisse, comme on voyait auparavant. Là. Après, il a pris la fuite. Puis les policiers ont commencé les recherches dans le quartier. Il y avait un maître chien aussi. On a retrouvé le suspect.
Ça me semble être un appel à l'aide.
Un genre de « ça va pas bien ».
Le jeune homme a 16 ans, puis il se dit « là, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin d'attention ». Il est allé braquer un dépanneur. Je veux dire, braquer un dépanneur en 2024, c'est un peu weird.
Ah,
là.
Tu le vois à ce point-là,
par la suite, ouais, c'est lui-même qui a appelé les policiers. Y a-tu de la drogue là-dedans? Y a-tu une dépression? Il voulait-tu de l'aide? Tu sais, des fois, malheureusement, il y a des gens qui prennent cette solution-là pour avoir de l'aide et de l'attention. Là, c'est sûr et certain qu'il va être encadré dans les prochains jours.
Regarde, personne n'a été blessé. On n'encourage pas du tout ce genre de geste-là.
Ah non, pas en tout.
Sincèrement, si la personne est en détresse psychologique...
C'est l'affaire la plus conne pour demander de l'aide parce que vous traumatisez un commis de dépanneur.
Oui, il y en a qui restent marqués.
Tu sais, lui, là, c'est sa job. Il fait pas des milliers de dollars par année pour manquer de se faire tuer, là. Toute sa vie, il va s'en souvenir de ça. Comment il l'a perçu, ce braquage? Il va-tu, aujourd'hui, tu as de la misère à dormir? Vas-tu manquer 2 semaines de job? T'sais, il y a des impacts à ça. Absolument. Mais le jeune de 16 ans qui fait ça, ça me semble être un appel à l'œil.
Il s'est rendu, en fait, aux policiers. Ils sont allés chercher à Limoilou, puis il a été interrogé une partie de la soirée. Il est encore détenu. Je vais te reparler aussi d'un dossier qu'on a jasé en début de semaine. La mère d'un jeune qui s'est fait attaquer au pauvre de Cayenne, qui parlait sur nos ondes, puis qui disait que ça l'inquiétait, que son fils avait eu des grosses douleurs, qu'il avait rien fait à ces jeunes-là qui l'avaient attaqué à l'ancienne Lorette. Puis c'était la deuxième fois que ça arrivait, ce type d'agression-là. La première fois, c'était sur une jeune fille, puis elle avait été volée. Dans le cas de Stéphanie, qui nous en parlait en début de semaine, son fils n'avait pas été volé et tout, mais il était traumatisé d'eux. Il faisait juste marcher avec son ami, finalement, puis il s'est fait attaquer. Son ami a réussi à se sauver. Il est allé chercher de l'aide, puis ben, le mal était fait. 4 jeunes arrêtés après les attaques aux pauvres de Cayenne dans cette histoire-là. En fait, c'est des jeunes de 14 à 17 ans. Les policiers ont mis la main sur eux dans les dernières heures. Sont arrêtés en lien avec des infractions d'agression armée, de vol qualifié et de complot pour le 16 et le 20 septembre dernier en soirée du côté de l'ancienne Lorette, donc pour les 2 événements. C'est un soulagement pour, bien sûr, Stéphanie, mais ça va un petit peu plus loin parce qu'il y avait 2 de ces jeunes-là qui étaient déjà fichés par les policiers. Ils sont interrogés par les enquêteurs du service de la police de Québec. Certains d'entre eux sont présentement détenus et on continue les comparutions aujourd'hui au tribunal de la jeunesse. Les autres ont été libérés sous promesse de comparaître, mais c'est loin d'être la fin dans ce dossier-ci. C'est sûr qu'on va en reparler. Du côté du Mont-Sainte-Anne, ça fait encore jaser le Resort of the Canadian Rockies. Québec serait sur le point de conclure une entente avec l'opérateur du Mont-Sainte-Anne, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui militent, en fait, pour le fait qu'on investisse et qu'on soit capable d'assurer une sécurité du côté de cette montagne-là qui est bien aimée. Ça fait des années qu'on est en sous-investissement pour le RCR. Et là, on serait sur le point de conclure cette entente financière avec le gouvernement Legault. On a dit dans le régional, le charlevoisien, que les détails de l'entente seront dévoilés dans les prochaines semaines. On a peu d'informations pour l'instant, mais c'est une source gouvernementale qui est proche du dossier qui a quand même dit qu'on est là-dedans, même si ce n'est pas encore ficelé et signé. Rappelez-vous, au printemps dernier, M. Fitzgibbon, qui a quitté, avait réitéré qu'il n'était pas question d'exproprier RCR du Mont-Sainte-Anne, mais on se disait prêt à aider pour qu'il y ait des investissements sur cette belle montagne-là.
Mais ça n'a juste pas de bon sens encore. C'est Québec qui va déplier de l'argent pour donner une entreprise privée pour qu'on mette cet argent-là sur des infrastructures. On peut-tu leur faire confiance encore à cette entreprise-là qui ont fait en sorte qu'il y a des gens qui ont été blessés? Il n'y a pas eu un mort aussi de mémoire dans un accident au Mont-Saint-Anne. En tout cas, des gens qui étaient blessés, ça, c'est très certainement. Cette entreprise-là semble complètement irresponsable. Puis le gouvernement, plutôt que de passer par la cour pour les évincer parce qu'ils ne sont pas capables de gérer leur belle montagne, bien, on va leur donner encore de l'argent pour qu'ils continuent à exploiter cette station-là. Puis probablement qu'on va-tu être capable de suivre l'argent qu'on donne?
Ben, j'espère que oui, mais
il va-t-il avoir quelqu'un du gouvernement pour dire que chaque denier public qu'on donne, ça va aller directement pour ce qui est des remontes de pente? pour pas qu'il y ait personne de blessé.
Yannick, je suis rendu un peu découragé de ça, tout ce qui est ventilation de projet, où est-ce qu'on met l'argent, fait que j'ai l'impression que je vais te répondre non.
On vit vraiment dans un drôle de modèle.
Du côté d'Ottawa, ce qui fait jaser aujourd'hui, c'est qu'on a rejeté les permis de travail restreints. C'est pour la répartition des demandeurs d'asile. C'est le ministre Jean-François Robert, je fais longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, qui est rentré bredouille. J'aime la manière dont on l'évoque. Suite à une rencontre, ça a été fait avec deux ministres fédéraux hier. Québec réclamait de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Et on le réclame toujours parce que ça n'a pas fonctionné, comme je vous dis dans les discussions. L'idée, là, c'est d'avoir un permis de travail restreint. On veut répartir et mieux le faire, les demandeurs d'asile, à travers le pays. Mais ça a été écarté par Ottawa. Le gouvernement Legault, eux, demandait la mise sur pied d'un système de répartition pour que d'ici la fin de ce mois-ci, mois de septembre, il y ait une diminution de 50 % du nombre d'immigrants temporaires contrôlés par Ottawa jusqu'en juin prochain. On estime que 600 000 immigrants temporaires qui se trouvent sur le territoire de Québec, dont environ 189 000, là, si j'arrondis, demandeurs d'asile. Le ministre québécois de l'immigration n'avait pas de gain annoncé au terme de la rencontre, même plutôt on est un peu déçus de tout ça. C'est comme si on avait stagné, puis même qu'on avait reculé dans certaines demandes. Ce qui se passe à Québec me fait un peu rire. J'ai hâte de t'entendre là-dessus, Yannick, mais on critique l'avenue de Macron, le président Macron, à Montréal plutôt qu'ici, à Québec. C'est les oppositions qui en font un dossier aujourd'hui. Donc là, l'arrivée du président français, c'est prévu aujourd'hui. Et les partis d'opposition à l'Assemblée nationale, donc au provincial, disent « Bien là, le gouvernement Legault n'a pas fait sa job parce que la rencontre officielle est à Montréal, mais elle aurait dû être à Québec. » Puis le président français va se rendre d'abord à Ottawa, va rencontrer le premier ministre Justin Trudeau, pour ensuite se diriger à Montréal. Et là, il va s'entretenir avec le premier ministre québécois, François Legault. Puis il y a des discussions, entre autres, sur la transition énergétique et l'économie qui seront au menu. Mais selon les oppositions au provincial, on dit que Québec, c'est la capitale nationale. On s'est doté d'une loi pour l'affirmer, le souligner, puis c'est l'endroit de prédilection pour tenir des rencontres de cette nature-là. Donc, voici le scandale de la ville de Québec et du provincial aujourd'hui, Yannick.
Tu sais, on nous dit qu'on est la capitale nationale, puis qu'on est le berceau de l'Amérique française et tout ça, mais François Legault, la plupart des affaires qu'il fait, puis même on a la preuve encore aujourd'hui dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, tu sais, leur loyer, là, pour leur bureau à Montréal, que ce soit pour la Coalition Avenir Québec ou que ce soit pour le chef de l'opposition officielle, c'est des loyers de plusieurs milliers de dollars. Dans la majorité du temps, ces gens-là sont à Montréal et gèrent leurs affaires de Montréal. C'est une insulte que Macron débarque à Montréal versus Québec? Moi, ça me surprend pas, là.
Mais c'est-tu l'emploi du temps, tu sais, Ottawa, Montréal? Tu fais la route, tu arrives là, tu te dis peut-être qu'il n'y a pas assez de temps, il restait pas, tu sais, dans sa mission. Peut-être qu'elle est controversée, sa mission au Québec, là, pour lui aussi, puis au Canada, là, du côté de tous les analystes politiques.
C'est une demi-heure d'avion, là. Puis là, ça,
je le comprends.
T'es à l'extérieur, t'embarques dans l'avion, puis tu sors de l'avion, c'est une demi-heure.
Mais mettons, on arrondit ça au moins à une heure, là, le temps du contrôle. Mais toi, ce serait Québec, puis c'est tout?
Ben, c'est juste que ça me surprend pas qu'il aille tout simplement à Montréal. C'est là où les affaires se brassent, on va se le dire. On est une super de belle ville, là, mais quand les politiciens disent « Ah, vous êtes le berceau de l'Amérique française, capitale nationale du Québec », la seule et unique raison pour laquelle les politiciens sont ici, là, 2-3 fois par semaine, c'est parce qu'on a l'Assemblée nationale, c'est tout. Après ça, ils ressacent leur quête.
Une chance qu'elle est là, l'Assemblée nationale.
Ben oui.
Il m'en reste 3, puis c'est Pivard, on va un petit peu plus loin de Québec. Je te parlais souvent de cette île dernièrement de façon subtile, comme quoi ça brasse au niveau de la guerre des stupéfiants aussi partout dans la province. J'avais eu des informations, puis ça se confirme. Dans le Journal de Québec, il y a 5 hommes, une femme qui sont affiliés au Blood Family Mafia, le gang de rue que vous connaissez, là, qui est impliqué dans cette guerre-là, qui fait rage, oui, dans l'est de la province. Mais là, ils ont été arrêtés à cette île. Ça a été fait ce matin. Donc, équipe mixte d'enquête de cette île qui a mis la main sur une bonne partie, en fait, du Blood Family Mafia qui était présent du côté de cette île. Et je viens avec deux histoires particulières. Saint-Fulgence, on s'y dirige. Un couple là-bas, j'en ai déjà parlé, début de l'automne, fin de l'été, qui a été condamné à verser 82 000 à des voisins pour harcèlement, chicane de voisins qui finalement va coûter cher. Donc, c'est dans cette poursuite pour harcèlement criminel. C'était un conflit qui perdurait depuis une dizaine d'années entre des voisins. Et là, la juge de la Cour supérieure, a rendu son jugement. C'est une poursuite qui avait été entamée en 2021. Et on dit qu'il faut que cesse toute forme d'harcèlement, de menace à l'endroit des membres de la famille, les 3 enfants aussi, des voisins, interdiction aux voisins d'accéder au terrain de la résidence familiale aussi. Il y a eu un genre de cas du genre aussi à Saint-Sylvestre dernièrement dans le Binière. Il y a un homme qui a été condamné à payer 80 000 dollars dans une chicane de voisins. Il faut savoir que le litige avait éclaté en 2014. C'était au sujet de déplacement d'une ligne séparative de l'eau. Imagine-toi donc. Fait que non, c'est mon terrain. Non, c'est le tien. Non, il arrête là. Oui, il arrête là. Puis ça a dégénéré. 80 000 $, ça fait deux dossiers de chicane de voisins qui se résultent en ka-ching, ça va te coûter cher. Puis on en reparlera tantôt. Mais une courtière immobilière qui a été étranglée et agressée sexuellement pendant une visite. C'est un genre de scénario de film d'horreur ou de série qu'on pourrait voir sur Netflix. C'est pas ici que ça s'est passé, c'est à Montréal, mais je garde ça dans ma petite poche.
Boulevard 102.1.
Marceau le midi.
Ce dimanche 29 septembre, encourage le Rouge et Or. Dès 13h au Stade TELUS, le Rouge et Or affrontera les Stingers de Concordia. Viens t'échauffer avec ta gang au tailgate d'avant-match Boulevard 102.1. Plusieurs prix à gagner, cadeaux Boulevard, nourriture et carte cadeau Laurier Québec. De plus, en passant la tente Boulevard, note l'indice du match et tu pourrais devenir finaliste pour le grand prix de 1 000 $.
Et Yannick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
2 minutes, Denis Gravel qui est en place, Pascal CV qui est un peu traumatisé de l'été qu'elle a connu. Ça a l'air que les araignées sont plus grosses cette année que les autres années d'avant.
Les filles sont en panique.
J'ai
pas peur des araignées, j'ai jamais peur. J'ai toujours été la fille, pas les vers de terre, pas d'autres insectes, mais les araignées, toujours été la fille que je vais te l'enlever.
Ouais.
Mais cette année...
sont plus grosses.
J'ai trouvé tarentules.
Sont plus nombreuses aussi. Les deux sont vrais. En tout cas, de mon côté, je l'ai remarqué.
Ouais.
Tu sais, des nids d'araignées où t'en as des centaines et des centaines sur le bord d'une poubelle ou sur le bord d'une plante.
J'en ai écrasé une. Hein? Là, je m'excuse pour tous ceux qui veulent... Bon, fallait que je l'écrase. Puis ce qui est sorti de ça, là...
Faut pas t'écraser ça de un, là.
Yannick!
Ouais, ça nettoie la marde. Ça enlève toutes les moustiques qu'on a eues.
J'ai vraiment pas eu le choix. J'ai pas fait exprès.
Une araignée qui est dans ton logement ou dans ton condo ou dans ta maison, Pascal, si elle libère sa poche, dans sa poche, il y a combien d'œufs selon toi?
C'est ce qui est sorti de celle que j'ai écrasée. C'est ça que... C'était...
Fait que t'as fait des centaines de victimes, c'est ça?
J'ai fait...
T'as fait un génocide.
Ah, la police s'en vient.
Ce serait entre 500 et 1000.
Wow!
Ah, c'était dégueulasse.
C'est encore pire.
Donc, si t'en
je savais pas que c'était ça le chiffre. Mais...
Si t'en as une qui accouche chez toi... là. Ça pourrait donner entre 500 et 1000 araignées dans
la
ta maison.
La bébite m'écœure pas.
Ouais.
Mais ça, c'est bébé, ça m'écœure.
Ouais.
Tu sais, tu dors que le nid est en haut de ta tête, là, puis tu le sais pas, puis tu as ta bouche ouverte.
Ben, tu sais que dans une vie en moyenne, pendant qu'on dort, on avale une trentaine d'araignées.
Ça, c'est une rumeur.
Là, pour vrai, là, qui a analysé ça? Là? Il y avait des caméras.
Des experts.
Des
experts.
Que...
C'est ça. Okay. Des experts et c'est des gens qui ont témoigné dans l'anonymat.
Oui, aussi. Oui,
je vais t'avaler plein d'autres choses avant ça. Là.
Oui, évidemment.
Non, mais... c'est...
Je te laisse aller, Denis.
J'avais fini.
Pascal, je te laisse aller.
J'en ai une de même aussi dans mon show qui dit des affaires, puis t'es comme poigné avec ça, tu sais. Fait que...
on est habitué de rebondir sur bien des affaires.
Ouais, mais écoute, elle l'a dit. Moi, j'ai rien dit.
Il y en a des plus surprenantes que d'autres.
Ben voilà.
Ben oui. Mais les experts, Pascal, se sont penchés à savoir si c'est vrai que les araignées cette année sont plus grosses que les autres années auparavant.
Qu'elles sont plus.
Puis, elles sont plus grosses.
Tout grossit, c'est ça.
Ouais. Et les experts ont dit non, sont pas plus grosses. Grosse qu'avant.
Là,
c'est juste que celles qui réussissent à vivre jusqu'à l'automne ont mangé comme pas possible, ce qui fait en sorte qu'ils ont atteint une taille qui te plaît pas, mais pas, qui te plaît pas du tout.
Pourquoi est-ce qu'elles sont rendues plus gourmandes?
Ben parce qu'il y a plus de stock. Je lisais l'article où... parce qu'on est plusieurs à l'avoir constaté. Tabarnouche, il y a donc bien des araignées cette année, puis il me semble qu'elles sont plus grosses ou plus visibles que d'habitude.
Je trouvais que c'est un texte très important qui est sorti dans la... Honnêtement, je juge pas.
La première affaire qu'ils disent, c'est que on ne recense pas. Tu sais, les abeilles, on en a beaucoup parlé. Dans les
d'araignées.
Non, on n'a pas de recensement de la population Spider-Man. Fait que on y va avec des spéculations. Puis on dit que s'ils sont plus nombreuses, c'est qu'ils ont eu plus de bouffe et qu'ils se sont reproduits davantage. Donc, si on a eu plus de bouffe, c'est qu'on a eu de la mouche pas mal, mais ces araignées ont fait le ménage, ben tant mieux, j'imagine.
Pour la mouche, oui. Sauf qu'à un moment donné, je veux dire, quand t'es rendu avec la tarentule, pour vrai, là, je vous le jure,
y a
je
pas
sais
de
que c'est dur à croire, souvent on fait une corrélation femme-araignée, ça fonctionne pas. Ment pas, fausse nouvelle. Non, mais sont vraiment plus grosses. Il y a quelque chose qui, maintenant, peut terroriser des gens qui ont jamais peur. Les gars, vous faites vos fanfarons. Les gars, moi, je suis...
J'ai jamais eu de problème avec ça. De...
Bon, c'est moi aussi... J'ai un de mes gars qui a une peur maladive des araignées. Il voit une araignée, il panique. Ouais. Okay. Ouais.
Mais ça ne m'a jamais dérangé, mais cette année, je les trouve difficiles. Okay. Ça peut créer...
Moi, ma blonde, ses filles sont en panique dès qu'il y a une araignée à l'extérieur. Puis ils voient ça dans la fenêtre et ils paniquent. Là, parce qu'elle ne peut pas passer au travers de la fenêtre.
Non, elle ne peut pas.
J'ai ri parce que ça doit dater d'à peu près 2 semaines. Moi, j'étais un green, moi. J'étais un environnementaliste dans l'âme.
On te connaît comme ça.
Je fais tout le temps ma tournée des lumières dans la maison quand les filles sont couchées puis quand les gars sont couchés pour être sûr que tout est éteint. Puis j'étais malade un peu dans les dernières semaines, puis je me suis couché plus tôt. Et là, je m'aperçois qu'il y a une lumière en bas qui est encore allumée. Tu sais, dans l'embrasure de la porte, là, je vois qu'il y a une lumière en bas. Donc, je crie à Mandy. « Mandy, tu peux-tu fermer la lumière? » Elle dit « Non, il y a une araignée au plafond.
» Je voulais la voir avant de
mais
se faire attaquer.
C'est quoi le lien entre la switch de lumière et l'araignée qui est au plafond?
Ben, la voix, la petite sournoise là, qui te touche dans la nuit quand tu n'as pas donné ton consentement. Là.
Ben ça, on est tous oui.
Non, on est tous non. Sans oui, c'est non.
Ça a de l'air. Les araignées, c'est non, en général. Là. Mais elle voulait-tu pas la perdre de vue ou elle avait peur que l'araignée saute sa main à partir du moment où elle allait mettre sa main sur l'interrupteur?
C'était une très bonne question. Mais je voyais pas la corrélation entre non, il y a une araignée au plafond versus je peux pas éteindre la lumière.
Je veux pas la perdre de vue.
Mais tu sais, souvent, dans ce genre de changement-là, comme là, il y a plus de mouches ou je sais pas quoi, l'araignée a pris, pris du poids, est rendue gourmande, elle peuple le monde des araignées comme jamais. Il y a toujours des conséquences à ça. C'est comme la pêche cette année. Il y a plein de gens qui sont allés à la pêche. Ça a été extrêmement difficile de pêcher. Les truites faisaient trop chaud. Ils allaient dans le fin fond des lacs. Ouais. Même si tu mets tes poids, c'est tough.
Il y a peut-être beaucoup de maringouins aussi, peut-être. Beaucoup de mouches.
On me dit que dans le bois, ça a été l'asile cette année. Puis c'est peut-être ce qui explique qu'on est loadé d'araignées aussi.
J'aimerais ça qu'on remonte parce que vois-tu, là, la truite a de nouveaux prédateurs. Le saumon aussi, puisqu'il s'en va plus creux. Là, il se fait bouffer par d'autres. Ça va amener quoi, mettons? Si l'araignée est rendue grosse de même, qu'est-ce qui va la manger par la suite?
Arrête d'avoir peur des araignées. T'as-tu vu la grosseur des écureuils?
Mais sont
l'humanité, ils sont cute, mais c'est ça leur déguisement, c'est ça leur camouflage. Tu sais, Alfred Hitchcock pensait que ça allait être les oiseaux. Toi, tu penses que ça va être les araignées. Moi, ces écureuils, man, ils doublent de taille à chaque année.
Puis ils tiennent en groupe maintenant. Avant, c'était quand même assez solitaire. C'est un genre de Denis Gravel. Maintenant, c'est un Audrey Pinchot.
Ça dépend où tu es. Denis puis moi, on allait régulièrement ensemble, on allait se promener dans un parc à côté de l'ancienne entreprise où on était.
Le parc du Bois de Coulonges.
Écoute, les écureuils sont nourris par les gens de la place, sont gros comme des chats.
Ils n'ont plus peur de rien. Là. T'arrives là avec un Subway, il vient s'asseoir à côté de toi et il attend que tu lui donnes un 6 pouces.
Il attend.
Ouais.
Celui, il va sans consentement aussi.
Fait que la journée où les écureuils s'arment, moi j'ai une petite nouvelle pour vous autres, on est fait.
Bref. Trêve de plaisanterie. Non, les araignées ne sont pas plus grosses que les autres années. C'est juste qu'on voit celles. À ce temps-ci de l'année, on voit celles qui ont toffé tout l'été puis qui ont mangé bien en masse.
Mais je crois pas encore. Mais
rumeur
grave.
De corridor de l'Assemblée nationale, je sais pas si vous avez entendu parler. Moi, il n'y a rien qui me prouve que tout ça, c'est vrai. Mais il y a des rumeurs qui circulent actuellement à l'Assemblée nationale et ça circulerait aussi à Ottawa. J'ai pas l'information à savoir si c'est vrai que ça circule à Ottawa. Mais Geneviève Guilbeault aurait jasé avec Pierre Poilievre ou encore l'équipe de Pierre Poilievre pour une possibilité qu'elle se joigne aux conservateurs pour la prochaine élection. Je vous le dis, ça, c'est très gros. Si un jour, il y a une preuve photo ou vidéo ou texto qui sort dans les médias, ça va exploser. Mais elle aurait rencontré Pierre Poilievre pour une possibilité de se présenter avec les conservateurs au fédéral. Et ce qu'on m'a dit, c'est que elle aurait demandé aussi à avoir une tâche peut-être un peu plus... comment dirais-je?
Glorieuse.
Prestigieuse.
Ministre premium, tiens.
Ministre premium responsable du Québec, la sergente du Québec pour les conservateurs.
Moi, j'ai pas de mal avec ça, là. C'est juste que faut que tu te prouves avant.
Et selon ce qui circule à l'Assemblée nationale, ça lui aurait été refusé. C'est gros, ça, là.
Il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Premièrement, si c'est le cas, mettons que ça arrive, OK? On va regarder les deux scénarios. Mettons que c'est arrivé. Ça veut dire que Geneviève Guilbeault a perdu son combat pour la chefferie de la CAQ. Je pense qu'il y en a beaucoup qui la voyaient là. Je pense que la dernière année et demie a été un petit peu plus difficile. On voit que François Legault et sa vieille garde montréalaise sont déterminés, en tout cas dans ce qu'ils nous disent, à rester pour la prochaine élection. François Legault attend même plus les questions là, pour dire qu'il se représente en 2026. Il y a, donc, si moi, ce serait le signe numéro un que Geneviève Guilbeault, qui aspire vraisemblablement à devenir première ministre du Québec à un moment donné, moi, je pense que c'est un secret de polichinelle, voit pas cette possibilité-là arriver à court terme. L'autre chose... Ça fait beaucoup de monde qui quitte le navire de la CAQ, puis ils semblent tous quitter à un point et à un moment précis où Nordvolt nous pète d'en face. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à voir ça comme le scandale que ça risque d'être vraiment, peut-être le plus grand scandale de l'histoire des investissements du Québec. Puis on sait ce que c'est, la politique, quand le bateau coule, c'est les rats qui coulent le navire en premier. Maintenant... si on lui a pas donné les responsabilités qu'elle voulait, c'est peut-être qu'on vient les donner à quelqu'un d'autre puis que ça a l'air fou un peu. Je pense que Poilievre aurait eu peut-être intérêt à prendre une Geneviève Guilbeault dans son équipe. Je pense que c'est un atout plus qu'un désavantage. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Marceau. Je pense que tu as besoin de gros noms au Québec. Tu as besoin de gros noms dans la région de Québec. Je vois mal Poilievre lever le nez sur une candidature de cet ordre-là.
C'est un bon questionnement. Je regardais sur Québec 125, OK, pour ce qui est des intentions de vote actuelles des jeunes à sa circonscription, OK. S'il y avait des élections demain, là, ça date quand même, là, mettons 29 août 2024, c'est la dernière fois que j'ai eu des projections dans Louis Hébert. S'il y avait des élections à ce moment-là, le Parti québécois passait avec 36 %, donc 7 % de plus. 6 % de plus que Geneviève Guilbeault dans son propre comté. Donc, 36 pour le Parti québécois dans sa circonscription de Louis-Hébert contre 30 pour elle, donc elle serait défaite.
Mm-hmm.
Je regarde pour ce qui est des probabilités de victoire.
Oui.
C'est 87 % Le PQ rentre à la planche dans sa circonscription.
Ouais.
Fait qu'elle est pas folle, là.
Non, non. Ce serait un move sensé. Il y en a plusieurs qui le voient. Les opportunistes politiques le voient aussi. Puis ça nous amène au deuxième scénario. Marceau, mettons, c'est pas vrai. Ce gouvernement-là, à part faire des gens bêtes à tout le monde, il travaille-tu à un moment donné, là?
Les gens qui m'ont, les gens qui m'ont confié ça,
ouais,
sont les mêmes qui m'ont dit, il y a de ça plus d'un an, en fait plus de deux ans, que Geneviève Guilbeault cherchait à avoir des appuis pour se présenter à la chefferie de la coalition Avenir Québec, okay, il y a de ça quelques temps.
Mm-hmm.
François Legault en aurait eu vent. Il n'aurait pas du tout apprécié qu'elle commence à essayer de se créer des contacts pour... tester ses appuis.
C'est pas pour rien qu'il dit fréquemment qu'il se représente, là. C'est pas à nous autres qui parle.
Il l'aurait tassé.
Mm. Mais tu sais, Yannick, quand t'es dans un parti et t'es le leader, si jamais les gens à l'intérieur de ton parti se retournent contre toi, parce que c'est une façon de se retourner contre son chef, c'est pas juste on a des discussions, toi, tu voudrais partir quand, M. Legault, moi, j'aimerais ça peut-être être dans ta succession. Non, ça a été un travail en arrière. Moi, j'appelle ça un cheval de Troie. Tu rentres, là, t'es dans le gouvernement, finalement, t'es miné de partout, puis tu travailles pour toi, pour tasser, faire un putsch. C'est sûr que lui, il va prendre ses dispositions, puis il va dire, vous allez vous calmer, madame, il peut le faire. Il l'a tassé, puis il a sûrement trouvé un autre cheval.
Jonathan Julien.
Un autre poulain. Mais...
il s'est dit, je vais en prendre un qui pourra jamais accéder à mon trône.
Ouais, je vais en prendre un qui n'a pas le profil d'avoir des aspirations.
Et là,
désolé. Il est bien fin, Jonathan. Là. Il est bien, bien fin, Jonathan Julien, mais on va s'entendre, il ne sera jamais premier ministre du Québec. Là.
C'est la Ligue des cogneurs ici à midi. Là,
le fonds de commerce de Jonathan Julien, c'est quoi?
Ben là, c'est peut-être pour ça qu'on a envoyé Geneviève Guilbeault battre dans des gros dossiers aussi, comme le tramway, arriver avec ta pile de papier puis annoncer les mauvaises affaires.
C'est peut-être elle qui a tué le troisième lien et c'est elle qui l'a réanimé.
Mais est-ce réellement elle ou c'est une mission qu'on lui a donnée parce que justement, on tentait de lui faire prendre le décor un peu puis au terme du fédéral, ce genre de personnalité-là, ils savent en politique c'est quoi. Quand tu t'envoies un ministre annoncer ce genre de choses-là d'une manière qui n'est pas vraiment colmatée puis qui clairement va déplaire puis va jouer sur l'enjeu de réélection, c'est aussi un genre de suicide politique que ton chef te... Et où il dit, va faire ça, puis peut-être on va voir. Et où il sait exactement ce qu'il fait, puis au fédéral, ça joue. Là.
Mettons que ça se fait, OK? Mettons qu'elle le fait, là. Mettons qu'elle négocie avec Pierre Poilievre, puis que finalement, elle s'en va au fédéral, et qu'elle quitte en écrivant une lettre qui ressemble un peu à celle de Youri Chassin. T'sais, une lettre assassine qui varge. Ça peut faire très mal à François Legault, ça. Parce que Geneviève Guilbeault, dans l'imaginaire et dans la perception qu'on a au Québec d'elle, c'est un morceau pas mal plus important de la CAQ que Youri Chassin, qui était des rideaux depuis le début, qui aspirait, lui, à avoir un ministère, mais ils n'en ont jamais donné. Dans le cas de Geneviève Guilbeault, il y a beaucoup de gens qui la voyaient première ministre. Il y en a peut-être moins présentement qui la voient première ministre.
C'est mal connaître son CV, là.
C'est-à-dire?
Ben, pas rendu là, là.
Ben, c'est quoi d'être rendu là? Ronald Reagan, il était acteur. Donald Trump, c'était un clown à TV. Je veux dire, n'importe qui peut être premier ministre ou président. Les portes sont grandes ouvertes.
Dans le cas de Donald Trump, il avait géré les entreprises.
Les entreprises et les milliards de sa famille, là.
Je veux dire, mais on dirait que tu y crois.
Donne-moi des milliards, moi, être un homme d'affaires prospère aussi, moi.
Mais tu sais, on dirait que tu y crois plus d'attendre un certain moment dans ta vie où tu as atteint comme... T'as eu de l'expérience, t'as 50, t'as 60 ans, puis là, tu décides de te lancer en politique.
Ben,
là, Geneviève Guilbeault, elle travaillait pour le coroner.
Mm-hmm.
Elle travaillait pour le bureau du coroner, elle était porte-parole.
Oui.
Quand est arrivée la tragédie de Lac-Mégantic, elle s'est fait connaître parce qu'elle parlait à la place du coroner.
Oui.
Les policiers ont commencé à s'intéresser à elle en disant « Tabarouette, quelle personne exceptionnelle, elle s'exprime super bien, elle paraît bien, elle sort la main. »
J'ai lu un profil sur elle, puis il y a beaucoup de vieux politiciens qui sont fascinés par sa capacité à mémoriser de l'information, oui, puis être capable de la débiter en public. Mm. Puis ça... C'est une force ministrable et première ministrable dans mon livre à moi, puis ça nous amène à un débat éternel.
C'est d'être porte-parole?
Hein? Ben, je pense que oui. Dans ma tête, dans ma conception de la politique, le premier ministre, c'est le porte-parole des aspirations, des besoins, des priorités des Québécois.
Et des ministres et de leurs équipes. Ouais. C'est lui qui va les vulgariser.
Je comprends qu'on ne fonctionne pas de même actuellement. Là, on est en phénomène de pyramide inversée. Là, les décisions viennent d'en haut, puis en bas, c'est les porte-paroles. Mais moi, dans un monde idéal, c'est complètement l'inverse. Puis si tu cherches une porte-parole efficace, Geneviève Guilbeault en est une. Maintenant... On parle souvent des élus qui sont trop vieux, puis ça ferait peut-être du bien, une fois de temps en temps, d'avoir des gens de la nouvelle génération. C'est pas un peu ça, Geneviève Guilbeault, de dire que ce n'est pas des gens qui ont grandi dans la politique. Donc, c'est des gens qui vont faire des erreurs, évidemment. Mais en même temps, c'est des gens d'une nouvelle génération puis qui vont peut-être amener une pensée alternative. Mais je sais pas.
Peut-être un peu trop échaudé par Justin Trudeau, tu sais, qui est passé de prof de théâtre à premier ministre du Canada.
Ben,
un gars comme Gabriel Nadeau-Dubois qui me dit à moi quoi dire, quoi faire, quoi penser puis comment je devrais vivre alors qu'il n'a jamais pratiquement travaillé de sa vie.
J'ai une question.
Mais tu sais, une
certaine expérience de vie.
Oui, mais un des premiers ministres les plus importants de l'histoire du Québec, c'est René Lévesque. Mm. Vraisemblablement, René Lévesque venait de la TV. Je veux dire, ça a été un vulgaire et un historien hors pair à son époque. Il avait une formation de journaliste, mais c'était pas un gars qui avait grandi dans la politique non plus. Je veux dire, il a pris de l'expérience, mais il a quand même fondé le Parti québécois. Puis dans l'imaginaire collectif, si tu demandes aux gens de moins politicien important dans l'histoire du Québec, il va sortir top 3 tout le temps.
Mais il était pas seul dans ce temps-là.
Non, mais ils sont jamais seuls.
Les politiques.
Puis lui, il a suivi des cours aussi là, de
communication.
François
Legault avait Sirois avec lui. Là, maintenant, il y a Martin Koskinen. Puis,
tu veux dire qu'il y avait des bras droits plus apparents, plus présents?
Ben, écoute, c'était pratiquement des comités pour diriger le Québec. Là, maintenant, on a un François Legault avec un Martin Koskinen. On me dit que Charles Sirois s'est éloigné dans les dernières années. Puis je ne sais pas pour quelle raison. Il doit sûrement y avoir une raison. Tous les anciens partenaires d'affaires de François Legault, ils ne parlent plus. Mais dans le temps, tout le monde était ensemble, travaillait de concert, puis ils prenaient des décisions ensemble. Puis oui, il y avait René Lévesque qui était le porte-parole principal, bien entendu, mais on disait, mais ces gens-là, ils dirigent le Québec.
Oui, mais il faut un leadership,
là,
il faut faire attention.
François Legault puis Martin Koskinen. Mais bref.
Quand on vote, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, le leadership. J'en parle tout le temps, puis j'ai pas la science infuse, mais pour moi, c'est... Puis je l'expliquais à un auditeur récemment par texto. Le leadership positif, puis souvent tu vas me dire, ouais, toi, Trump, tu l'haïs. J'ai toujours dit que c'est son leadership que j'aimais pas. Un leadership va faire en sorte que ton équipe va se rallier avec toi. Tu vas marcher à ses côtés, pas devant ton équipe.
Ça, Geneviève Guilbeault, c'est une leader.
François Legault, lui, il marche devant son équipe, je trouve, puis devant même les autres paliers gouvernementaux. La question que je voulais vous poser.
Mais Geneviève Guilbeault, c'est une leader.
Je m'en vais là. Est-ce que Geneviève Guilbeault, pour vous, a été brûlée par elle-même? Ou par son parti et donc François Legault?
À mes yeux, à moi, à ce que j'entends, c'est par elle-même. C'est pas aussi pire qu'une Martine Ouellette, là, mais elle était au départ, quand elle est arrivée en politique, elle était épouvantable avec les membres de son propre cabinet.
Mm-hmm.
Puis elle s'est ravisée par la suite, mais c'est une personne qui, écoute, elle se prend pas pour de la merde.
Pour toi, c'était elle, toi, Denis?
Je pense qu'elle s'est isolée beaucoup au sein du parti pour des bonnes et des mauvaises raisons. Puis présentement, ça pourrait expliquer qu'elle ait peut-être tendu une perche du côté du fédéral. On parlait d'équipe. Je veux revenir là-dessus rapidement parce qu'il y a un point que je trouve intéressant. Est-ce que dans les années 70, l'entourage d'un premier ministre, c'était ses ministres, et que maintenant, l'entourage d'un premier ministre, c'est son attaché de presse, c'est son faiseur d'images, c'est son écriveux de discours.
Exact.
C'est intéressant, ça. Ça a changé. Tu sais, quand tu parles de la première équipe de députés du Parti québécois, il y était 6, si je ne m'abuse, la première fois. C'était une équipe qui était tissée serrée.
C'était une famille.
Tu avais la conscience économique avec Jacques Parizeau, tu avais tout l'aspect conditions féminines avec Lise Payette. Je veux dire, tout le monde avait son rôle, puis tu avais l'impression que c'était comme un band, tu sais, c'était comme Harmonium ou Beau Dommage ou whatever. L'image qu'on bâtissait, puis le rôle des non-élus à cette époque-là était beaucoup moins grand qu'aujourd'hui, alors que souvent, moi, c'est le feeling que j'ai le feeling qu'on est gouverné par des attachés de presse puis des écrivains de Twitter.
Ben, c'est rendu comme ça.
Oui, puis ça peut créer de l'isolement, puis ça peut créer de la dissension plus facilement au sein d'un parti, alors que t'as l'entourage rapproché de Mme Guilbeault, que t'as l'entourage rapproché de M. Legault, puis ces gens-là, à journée longue, semblent se trouver des façons soit de chicaner, soit de faire mal paraître l'adversaire alors que tout le monde est dans le même gouvernement. Puis ça pollue la politique. Ça fait que des gens comme moi vont plus voter les journées d'élection.
Denis, on va juste faire une petite aparté puis on va parler de la NSPW 30 secondes. Steve Boutette nous a parlé vers 11h40 tantôt.
T'es-tu prêt?
Steve Boutette, c'est Stephen Sullivan, c'est le gars avec qui je vais danser au Centre Horizon vendredi.
On va trouver ça rough comme danse.
Là, il a sorti une patente comme quoi, à chaque chop, c'est quoi, des gens d'atémie?
Ouais, sur la poitrine, là. Ouais.
Bon. Mais là, on va. Des claques, vous êtes deux passionnés. Là,
il est réputé pour avoir une bonne chop.
Ouais, là, lui, il a dit à chaque fois que je vais le fesser, je vais donner 20$ à la bouchée généreuse. S'il y a des gens qui veulent embarquer avec moi, je vous prends. Okay. Là, il est rendu sur sa propre page Facebook. Il y a des gens qui veulent donner 50$, là.
Oh!
Des gens qui veulent donner 60$.
Ah,
honnêtement, je sais pas trop comment vous allez vous organiser, là. Mais pensez à ça, là. Moi, c'est moi qui vais recevoir ces claques-là. Là.
J'y vais, moi aussi, pour 20$, Steve.
20$ la claque?
20$ la claque.
J'ai embarqué, ouais, là. On est rendu au moins.
Je vais faire mon don à la fin du combat. puis je vais signer sur l'ambulance qui va te transporter à l'hôpital, Yann.
Mais ça se peut que ce soit juste la morgue.
Il y en a qui vont donner 40$. Mélanie, je te salue.
40$ au total, wow.
40$ de la chop ou 40$ total?
Si c'est de la chop, sérieusement...
peut monter vite.
Normalement,
là,
c'est 20$ la chop. Puis on a mis... Ben, en fait, il a mis un maximum de 40$ par personne. Parce okay. Mais il semblerait qu'il voudrait m'en donner plus. La Michel Nation va donner 100$ au total pour voir Marceau se faire chopper.
Parce que je connais un gars, un lutteur qui s'appelle Eddie Kingston et sa spécialité, c'est la chop mitraillette. Mais ça veut dire que tu peux faire 20 chops en l'espace de 20 secondes. Je sais pas si Stephen Sullivan te prépare ça, il va nous ruiner, là. En plus de ruiner ton beau chest, Marceau.
Mettons 1000$, on s'arrête, là. S'il est mort, ça compte plus.
T'es-tu nerveux, là?
Ben là, un de mes commanditaires pour mon costume qui donnait déjà 100$, je pense que c'est Passion Informatique de mémoire, Pascal. Juste vérifier. Oui, Passion Informatique, il dit, moi aussi, j'embarque là-dedans. Je mets 100$ de plus pour les chops.
Ben écoute, c'est pour une bonne cause, au total tout. Comment ça, être stressé?
Non.
Non?
Non. C'est la seule chose qui me stresse, c'est d'être en bedaine devant 300-400 personnes.
J'y crois pas.
Je peux comprendre le feeling.
Tu y crois-tu?
Je sais pas. J'ai beaucoup de misère à te lire sur le stress, Marceau, en général.
Mais j'en ai pas de stress.
C'est ce que tu dégages, mais dans ce temps-là, moi, je flaire toujours l'arnaque.
Ah, moi aussi.
Le gars qui se la joue cool, il doit avoir un petit gars stressé qui angoisse dans le fond de lui-même.
J'ai une peur de jaser devant des gens. Puis j'ai une... Puis là, ce soir-là, je veux dire, moi, je suis jamais sous les projecteurs. Ça m'arrive jamais.
Ouais.
Je ne cours pas ça.
Puis là, ben le dernier combat, c'est là. Je vais être là avec Gros Gorille et ses bananes. Pis...
Yannick, tu te bats contre un homme
là,
devant des centaines de personnes.
Je pense que je l'ai trop bavé. Mais bref.
Ouais, là, c'est ça. Là. Quand tu poques un ours, à un moment donné, l'ours, il se réveille. Est-ce que tu as eu la chance de t'entraîner sur un ring de lutte dans les dernières semaines?
En fait, je fais du MMA maintenant. Là.
OK. Ouais,
je fais pense
Mick Martial Heart. Ouais. Là, j'ai appris qu'on pouvait graffiner les yeux à lutte.
Non, tu peux pas.
Il s'en invente.
Normalement, l'arbitre est supposé t'avertir si tu graphiques les
yeux. Faisait ça des années 80.
Oui, mais normalement, des années 80, je veux dire, l'arbitre, il regardait pas.
Après ça, des coups de poing, ça fonctionne.
Des coups de poing, ça fonctionne.
Mes maris violaient leur femme aussi en 80, ils ne disaient rien.
Quel genre de famille?
Ça a changé.
Ouais, c'est ça.
Non, mais pas dans ma famille, mais comprenez.
Ouais, c'est ça. Non, je trouverais bien quelque chose. Mais l'étrangler, ça se fait bien. Là.
L'étrangler?
Ben oui, pour la prise du sommeil.
T'as-tu appris comment on fait une prise du sommeil? Tu sais que ça marche pour vrai, en passant?
Oui, je l'ai vu.
Tu sais.
Tu peux vraiment...
Oh oui, absolument.
C'est quoi? Je veux
dire, tu coupes la circulation sanguine au niveau du cou.
La carotide.
C'est ça, la carotide, oui.
Comme ça.
Exact.
Ouais, le fais-toi-les pas toi-même, là. Je veux dire, est-ce que les caméras filment?
Hey, j'ai le droit d'avoir mon plaisir.
Oh, oui, écoute, choke-toi tout dette. Vis ta best life.
Ah, salut Marceau, c'est où est-ce qu'on peut se procurer les billets pour le combat de lutte? C'est au Centre Horizon. C'est au centre-ville de Québec, là, donc en Basse-Ville. Ça va être à 20h vendredi. Vous pouvez vous rendre sur place à 20h, puis vous pouvez acheter les billets à l'entrée. Sinon, vous allez directement sur lepointdevente.com. Vous tapez dans l'onglet de recherche NSPW.
Le Centre Horizon est collé sur la sortie d'autoroute du Frein-Montmorency, juste avant celle de Charest. C'est pas compliqué.
J'envoie aussi par texto au 88-971-1021 le lien direct pour acheter votre billet depuis le début de l'émission. Si vous voulez, c'est très facile, 88-971-1021.
Autre dossier qu'on a traité cette semaine avec une mère de famille qui avait été impliquée dans le dossier, ça se passe à l'ancienne Lorette, jeune qui était aux abords de l'école secondaire, qui se promenait avec un de ses amis. Et tout d'un coup, c'est 5 personnes qui se sont approchées de ces deux jeunes-là en courant. Là, ils ont essayé de sauver, mais finalement, ils ont été aspergés, Denis, puis le jeune ne comprend pas encore à ce jour pourquoi il a été attaqué de cette façon-là. Aspergé avec du poivre de Cayenne. Poivre de Cayenne, vous pouvez acheter ça partout. Sauf qu'au Québec, il y a des entreprises qui se sont prises en main, entre autres La Tulipe, qui est une excellente entreprise, que si tu veux acheter du poivre de Cayenne, ben, ça prend 18 ans. Mm-hmm. Puis si je ne me trompe pas, faut que tu montres tout de suite ton permis de conduire. Puis là, ben, ils vont te prendre en note, puis ils vont te donner ta bonbonne de poivre
que
de Cayenne.
Que ce soit géré puis contrôlé.
Au moins, ils savent que tu en as une.
Mais il y a des auditeurs, en parlant de ce dossier-là avec la mère, il y a des auditeurs qui nous ont dit « Non, mais ça se vend sur Amazon, c'est un répulsif à ours. »
Exact. N'importe qui peut en acheter, n'importe comment.
Mais tu sais, t'as 4 jeunes qui approchent deux petits gars qui sortent de la forêt, qui n'ont jamais été en altercation avec eux, pour aucune raison. Un des deux réussit à se sauver, à aller chercher de l'aide parce qu'il sait que ça va mal virer, parce que déjà son ami a été attaqué par le poivre de Cayenne, il est à terre. Là, c'est la deuxième fois à une semaine d'intervalle, puis la petite fille, au départ, qui s'était fait attaquer le 16, ben elle a été volée aussi. Là, tu te dis, où est-ce qu'on est rendu? C'est-tu des gestes comme ça.
Le crime gratuit.
Mais c'est pas le cas, parce que 2 des 4 personnes arrêtées étaient déjà fichées par les policiers. Mm-hmm. C'est des jeunes entre 14 et 17 ans. Puis on va avoir plus d'informations au courant de l'enquête et des témoignages recueillis.
Mais le niveau d'agressivité monte, le niveau de violence monte, puis ça donne des situations comme ça où des gens sont pris à partie sans qu'il y ait de motif, sans qu'il y ait de raison. Puis je comprends les parents d'être inquiets, puis j'étais content d'entendre la mère aller au-devant puis essayer de faire en sorte justement qu'il y ait des arrestations dans un dossier comme celui-là, mais... Tu sais, je comprends les inquiétudes. Je réfléchis beaucoup à ça. Depuis une couple de semaines, veux pas, on a des enfants qui grandissent nous-mêmes, Yann, puis tu te demandes dans quel genre de monde ils vont vivre. Puis l'idéal, c'est toujours de leur donner un monde un peu meilleur que celui que nous autres, on a eu. Tu sais, l'idée d'être là, c'est d'améliorer ça un peu avant de le laisser.
Tu sais, ce qu'on risquait au secondaire, Denis, toi puis moi, c'est des claques à la gueule.
Oui.
Puis ça, tu sais, il y avait des bagarres à chaque vendredi, il y avait une bagarre, puis d'autres on était là pour regarder la bagarre, puis on trouvait ça bien intéressant.
Tabarnouche, j'ai l'impression que toi aussi t'es allé à polyvalente Charles Gravel de Chicoutimi Nord, réputé pour ça d'ailleurs.
Pour se battre, avoue, c'était bien populaire. Oui. Oui.
À Cardinal-Leroy, c'était à chaque vendredi.
C'était pour le plaisir là, d'avoir des rivalités.
Je pense que c'était juste pour libérer la pression, mais aujourd'hui dans les écoles secondaires, c'est répulsif à ours, c'est des couteaux, c'est des poings américains, on dirait que puis des armes à feu maintenant. Nous autres, c'était impensable qu'il y en ait un qui puisse sortir un morceau devant quelqu'un d'autre.
Premièrement, c'était pas mal moins accessible. Deuxièmement, maintenant, je veux dire, tu vois ça partout. Je veux dire, tu as des vidéos qui sont spécialisées là-dedans. Le genre d'attaque gratuite que tu filmes, puis après ça, tu mets ça sur Internet, puis tout le monde trouve ça drôle, alors qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Je veux dire, c'est de la violence pour faire de la violence. Il y en a toujours eu, mais l'accessibilité de tous ces produits-là maintenant, puis... Un certain sentiment d'invulnérabilité, là. Maintenant qu'on est sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'être omniscient, on a l'impression d'être invincible, on a l'impression que les humains autour de nous autres n'existent pas ou à peu près. Tu sais, je veux pas être prophète de malheur, là. Vive la technologie, elle a plein de bons côtés, mais il y a beaucoup de gens isolés que quand ils se retrouvent en société, ils considèrent pas les autres humains. Ça, on le voit à tous les jours, on le voit dans des petites situations, mais on le voit aussi dans des situations d'agressivité comme celle-là où des crimes complètement gratuits sont faits de façon complètement cheap.
Ouais, les gangs, tu sais, moi, mes gars sont sont en Beauce. Ça, puis, j'aime beaucoup les valeurs fondamentales des Beaucerons. Puis on dirait que je me conforte là-dedans en me disant mes gars vont tomber en majorité sur du bon monde tout le temps. Mm-hmm. Mais si j'habitais à Québec, je serais stressé. Parce que dans une gang, on dirait que plus t'es, mettons, t'es 20, t'es 30, le QI va descendre. Le QI de tout le monde va descendre au plus bas QI.
Ouais, puis... mais là, le QI est déjà très bas. T'sais, moi, j'ai inventé un mot, là, la pionisation. C'est rendu des pions autour de nous. On a notre cercle, on a nous. Puis les gens autour, ne serait-ce que pour laisser passer en voiture, ne serait-ce que pour tenir une porte, ne serait-ce que pour saluer, c'est comme c'est rendu un pion dans notre vie. Puis qu'est-ce qui a amené ça?
Et qu'est-ce qui va faire la différence entre un enfant et un ado qui va grandir puis qui va prendre les bonnes décisions puis qui va se tenir loin des mauvaises personnes, des mauvaises graines, des mauvaises gangs et ainsi de suite? Moi, je regarde l'expérience de ma gang de chums à Chicoutimi-Nord. On avait tous des parents qui se ressemblaient d'un niveau avec des valeurs qui se ressemblaient. Il y en a qui ont mal viré. Il y en a qui sont restés à l'abri de ça. Moi, j'avais la chienne, fait que c'est probablement ce qui m'a sauvé les fesses. Là, j'avais peur de tout quand j'étais petit. Mais je regarde mes enfants puis je me pose beaucoup de questions. Tu sais, comment je dois me placer par rapport à tout ça? Parce que si on est trop preacher, ça risque d'avoir l'effet inverse que l'effet qu'on veut que ça ait, tu sais, de parler de la violence puis tout ça. Puis en même temps, bien... moi, je trouve ça important qu'on aille des bonnes personnes puis qu'on fasse grandir des bonnes personnes aussi, de faire partie des gentils, même s'il y a plus de méchants, tu sais. Ça a l'air niaiseux, dit de même, mais je pense que n'importe quel parent conscient est inquiet de ça puis se pose des questions là-dessus.
Le rapport à l'argent, là, c'est une piste de réflexion, là. Je l'ai identifié. Avec les réseaux sociaux, les expériences que les gens vivent, les vêtements que les gens portent, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont faire, l'apparence de la société, le superficiel a pris quand même un gros air d'aller. Puis le rapport à l'argent, du genre faire de l'argent rapidement facile. Pour accéder à ça, ouais. Pour être hot ou pour avoir l'air d'avoir un certain prestige ou placement en société, ça, j'ai vu au sein des jeunes un genre de... j'en ai besoin tout de suite, rapidement, travailler plus jeune juste pour pacter. T'sais, nous, dans notre temps, c'était pour avoir nos petits sous pour des petites affaires que nos parents ne pouvaient pas nous payer ou ne voulaient pas nous payer ou des affaires comme ça. Mais le rapport à l'argent est une piste intéressante dans ça.
Combien ça coûte pour... c'est quoi la récompense pour tuer quelqu'un là actuellement?
C'est
pas... en fait, c'est 500 000.
Ce serait... À Montréal, si tu veux tuer quelqu'un... Selon l'informateur qui est venu ici en studio dans l'open mic,
ouais.
C'est un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec. Il a été dans les plus grandes escouades, c'est 1000 $.
1000 $? Ouais, je peux pas rivaliser avec mes tontes de pelouse.
Mais non.
Rendu là, faut juste que le bon côté de l'humain embarque. Je peux pas donner 1000 $ pour tondre la pelouse. Regarde, au lieu d'aller tuer quelqu'un dans une gang de rue, le ton la pelouse à papa m'a donné 1000 $.
Ouais, OK. Hey. Dernier sujet, rapidos, on va passer là-dessus rapide parce que ça surprendra pas grand monde. Je regardais la docteure Julie Morris, qui est la présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Elle regarde l'état des hôpitaux à la grandeur du Québec et elle dit qu'il y a trop de patients d'hôpital actuellement qui sont incapables de recevoir leur congé. Parce que certains d'entre eux doivent avoir une place en CHSLD, donc prennent des civières. Mmh. Et là, elle dit, ça nous inquiète pour ce qui s'en vient parce que le temps de la grippe n'est pas encore arrivé.
C'est ça, on n'est pas dans une grosse période.
Et ça va exploser. Puis souviens-toi, chaque année, je faisais un medley des nouvelles qui avaient été réalisées dans le cadre, je te dirais, du mois de décembre jusqu'à la mi-janvier, à tous les ans, où il parlait du temps d'attente dans les urgences.
Ouais.
C'était tout le temps la même affaire. Je pense que j'avais, de 2010 jusqu'à 2020, je l'avais ramassé.
C'est tout le temps pareil.
C'était tout le temps du 150, du 200, du 210. À Québec, présentement, si t'es sur une civière, OK, ça veut dire que t'es pas à l'urgence dans salle d'attente. C'est que t'as déjà passé au tri, t'es dans salle d'attente, et après ça, ils t'ont dit... veuillez passer derrière, on va vous donner une civière. Okay? Fait que ça ne comptabilise pas le temps que tu as attendu avant de rencontrer ton premier médecin.
Ouais.
Okay? Actuellement, à Québec, c'est plus de 20 heures sur la civière.
Puis là, t'es comme compensé pour ta douleur, ça veut dire? T'as une certaine médication, mais sans plus, parce que t'as déjà vu certains experts.
Tu sais, moi, ma conjointe y était, là, à l'urgence, dans les civières en arrière, puis t'es pas mal plus confortable sur une civière que dans la salle d'attente.
Ouais, en partant,
je te le confirme. Mais 20 heures sur la civière en attendant de monter sur les étages.
Ça n'a pas de bon sens.
Mes amis, Noël va être l'enfer cette année.
Ouais, puis on le dit souvent, ça va pas en s'améliorant. Je veux dire, la population vieillit, le manque de personnel. Pourtant, on tire de l'argent ces problèmes depuis des années et des années. C'est bizarre, hein? On fait tout le temps la même affaire, puis on se retrouve toujours avec le même résultat.
Ah, mais c'est... Oui, c'est ça.
C'est spécial.
Exact. Hein? Donc, Québec, c'est-tu beaucoup 20 heures d'attente sur la civière à Québec?
C'est-tu vraiment une question, Yannick?
C'est-tu beaucoup?
C'est nous tu prends pour des cons ou c'est eux qui nous prennent pour
non,
des cons?
Non, c'est parce qu'il se renseigne, parce qu'il va se ramasser lui-même sur une civière vendredi soir.
À l'hôpital général de Montréal, le temps d'attente sur la civière, Pascal, est à peu près de combien? Mettons que Québec, c'est beaucoup avec 20 heures. Là.
Ouais.
À l'hôpital dis-moi pas un 30.
Général de Montréal, c'est 42 heures la moyenne.
C'est extraordinaire, pareil. Hein? C'est un beau voyage. C'est un beau aller-retour New York avec moins un bon resto là-dedans. Là.
Plus d'un milliard par semaine et c'est pas suffisant, les amis, pour tout le système bien. De santé. Denis Gravel, je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute à 14 heures avec Véro et Audrey.
Thank you, les amis.
Salut, puis on se voit vendredi, mon ami.
Oui, monsieur.
Peut-être pas lundi.
Denis, il y a vraiment quelqu'un dans sa vie en passant. Là.
Comment ça?
Ça s'habille de mieux en mieux.
Pourquoi?
C'est tout. On s'en va en pause. Valérie Gaudreau s'en vient.
OK. Marceau.
Midi 42, pendant les pauses, je suis en train de subir un entraînement intensif.
Tu dirais perdre ton temps et le mien, mais...
Pourquoi perdre mon temps?
Mais tu trouves que ça, c'est un entraînement intensif. Regardez des vidéos YouTube de lutteurs.
Oui, ça date... écoute, ça a été vu, quoi, 11 millions de fois.
Okay.
C'est Hulk Hogan qui défendait son titre de championnat du monde contre André the Giants. The Giants, André Ferré.
OK.
Géant Ferré, je pense que c'est le même qu'on l'appelait. C'était tout un combat. Puis comme Gros Gorille, il y a une petite différence de poids avec moi. Puis d'ailleurs, à 14h15 cet après-midi, ça va être la pesée officielle. Faut que je me rende rapidement au centre Horizon. Ben, on va faire la pesée officielle. Vous allez voir, je pense que j'y concède... D'après moi, ça doit être 40-50 livres certains.
OK.
Suivez ça sur nos pages Facebook, 14h15, on met ça.
Ça commence à être inquiétant, tranquillement, pas vite, à voir ta préparation, puis à savoir que fort probablement, il est plus grand et plus gros que toi. Là.
Oui, et il a dit plus fort. Ça, on n'est pas sûr.
Ça, on est convaincu. On n'est pas sûr, ouais. On est convaincu.
Mais je me rappelle pas que si c'était Hulk Hogan qui gagnait ou si c'était le géant Ferré. Bref, je vais écouter ça pendant la chronique avec notre préférée, c'est Valérie Gaudreau, qui est chroniqueuse au Soleil. Salut Valérie.
Salut, mec, tu regardes les vidéos pendant que tu parles de politique, c'est super.
Ben oui, je suis un gars de même, moi.
Écoute, t'as un multitâche, toi, j'aime ça.
C'est rare que vous allez rencontrer dans vos vies, mesdames, un homme qui est capable de faire plusieurs choses à la fois.
Regardez de la lutte en parlant de l'avenir de notre démocratie. Toi.
Moi, j'appelle ça perdre son temps et mon temps, Val, pour vrai. Là. C'est pas faire deux choses en même temps.
De l'avenir de notre démocratie. Parlant de démocratie, s'il nous en reste un peu,
oui?
Le maire est passé où? Il est-tu à Québec ou il est encore en Europe? Là?
Non, là, il est parti. Il ne fait que commencer. Il ne fait que commencer en Europe pour les deux prochaines semaines. Donc, France, Espagne, Suisse, France. Tribulation un peu plus diplomatique, disons, c'est vrai que c'est pas la mission la plus concrète pour plusieurs, là. On en a déjà parlé ensemble, mais c'est des espèces de missions un peu de certaines obligations comme membre, comme président de des villes du patrimoine mondial, puis les maires de la francophonie, des choses comme ça. Alors, on n'a pas fini et c'est fascinant, Yannick, cette semaine, comment l'opposition de Claude Villeneuve et l'équipe du maire lui-même sortent, là, mais écoute, c'est frénétique. Ils sont là, presque en mode électoral, de convocation des médias. On dirait qu'ils essaient d'occuper l'espace en l'absence du maire. Une activité, deux fois, parfois même par jour. Alors, il y a une espèce de frénésie. Là, je me dis, écoute, on va tout arriver aux élections. La langue à terre, là, c'est dans 15 mois. Là.
Ouais. Mais ça fait-tu partie des stratégies? Normalement, c'est une stratégie qui est fort employée, là, et occuper la place quand le maire n'est pas là.
Tout à fait.
Puis est-ce qu'on le fait plus en ce moment parce qu'on a tenté de prendre la place publique dans les derniers mois, puis on n'avait jamais la possibilité, vu qu'on n'était peut-être pas assez sanguin ou assez pertinent pour certains, ou avec des annonces qui valaient la peine d'être plus entendues?
Oui, bien absolument, c'est une bonne lecture, Pascal, parce que ce que je trouve intéressant de Claude Villeneuve, notamment hier, là, sa sortie sur le patrimoine, sur la question d'endroit de résident dans le Vieux-Québec, de vitalité du Vieux-Québec, là, on est vraiment dans l'annonce. C'est vrai que la joute politique complètement folle, comme on vit à l'Hôtel de Ville de Québec, avec une scène municipale très couverte, bien, c'est souvent dans l'action-réaction, et c'est peut-être moins le moment, des fois, d'arriver avec vraiment une idée à eux. C'est vrai que c'est moins arrivé dans les dernières semaines, je dirais, depuis la rentrée. C'était souvent en réaction. Donc oui, d'un côté, peut-être de prendre ce pas de côté puis de vraiment dire voici ce qu'on propose, parce que on commençait, même moi personnellement, puis ici, en parlant avec vous, puis dans mes chroniques aussi, des fois, c'est dur parce que tu as un chef d'opposition qui veut être en réaction, qui veut commenter le dossier du jour. Souvent, il sait très bien que l'attention des journalistes ne sera pas nécessairement sur des propositions nouvelles. On veut ce ping-pong, un peu de réaction. Mais le résultat, c'est qu'il se retrouve, autant Patrick Paquette que Claude Villeneuve, toujours en réaction au maire. Alors, je pense que oui, c'est sain de profiter aussi d'un éloignement un peu là pour présenter d'autres choses. Mais du côté de l'équipe du maire aussi, écoute, visite des installations d'eau. On a fait quelques médias, en fait, d'entrevue avec Jean-François Gosselin cette semaine. On dirait que chaque jour aussi, on essaie de mettre en valeur un conseiller autre que l'équipe du maire. Et ça peut être très bon aussi, parce que on l'a dit, hein, Mané, cette équipe-là, le danger, si ce soit le parti d'un seul homme. Alors, je pense qu'on veut montrer qu'il y a Pierre-Luc Lachance qui sortait avec les commerçants de Saint-Vallier aujourd'hui. Fait que, tu vois là que chacun essaie de tirer un peu, profiter de ce temps-là pour avancer d'autres dossiers sans voir aussi.
Claude Villeneuve, est-ce qu'il a annoncé sa grande décision? Ça se posait être fait à la fin de l'été.
Toujours pas. Il réfléchit. Ce qu'on sait, c'est que...
J'ai l'impression que c'est directement arrimé avec la réflexion de sa mamade.
Ben, moi, je le pensais aussi, parce qu'à un moment, mais c'est vrai qu'à la rentrée, là, il y a eu des mots quand même. Moi, Claude Villeneuve a dit quelque chose où j'ai eu l'impression là, que la candidature de sa mamade était un peu discartée là, du côté de Québec d'abord. Mais je sais pas, peut-être que il se parle peut-être ailleurs. Moi, il dit on se parle pas tant que ça. Ils se sont parlé genre l'année passée, quelque chose comme ça. Mais tu sais, à la rentrée, Claude Villeneuve disait tu sais, Sam. T'sais, il a quand même évoqué aussi que le départ de sa maman de la politique, il y avait eu quand même une enquête du commissaire à l'éthique, il n'a jamais été véritablement blâmé, mais il s'est fait dire qu'il avait été imprudent dans l'octroi d'une subvention à Premier Tech avec, il avait été question de son ami Marc-Yvan Côté, il avait comme, tu sais, ça avait comme fini, il avait quitté le caucus du gouvernement Couillard à ce moment-là en 2016, il avait quitté la politique l'année d'après, et ça, Claude Villeneuve est revenu là-dessus. Il disait, tu sais, faut quand même que cette candidature-là, nous, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'elle est pour nous la signature du renouveau? Est-ce que c'est les valeurs de mon parti? Tu sais, il y a vraiment, vraiment, moi, je trouve beaucoup, beaucoup de nuances. Il trouvait qu'il était peut-être pas assez affirmatif sur des dossiers. Il disait, en fait, on ne sait pas ce qu'il veut, Sam. Fait que moi, je le vois pas beaucoup comme candidat. Est-ce que Québec, d'abord, ce qu'on sait, je pense qu'ils sont à la recherche d'une candidature. Claude lui-même, Villeneuve, lorsqu'il évoque une vie de famille, il a de très jeunes enfants, il est quand même très occupé déjà avec le titre de chef d'opposition. Comme conseiller de Limoilou, il l'est aussi. Alors, est-ce qu'il aura envie de vraiment faire le saut? C'est vraiment, j'ai très, très hâte de savoir quelles seront les vraies forces en présence pour chaque parti.
Mais je vais vous poser, vous poser la question aux deux. Est-ce que vous êtes capable de déterminer quelque chose de team Claude Villeneuve qui va à contrario de team Bruno Marchand?
Ben c'est le grand drame.
Il n'y en a pas.
Moi, je pense. C'est qu'à partir du moment où à Québec, puis, tu sais, politique municipale, là, t'as beau avoir, tu sais, on se défend un peu plus de centre-droit, un peu plus de droits individuels, un peu plus de d'environnement. Mais, tu sais, c'est pas l'État québécois, c'est pas. Au fédéral non plus, où tu as des visions réelles de la politique, du rôle de l'État, de la santé, de l'éducation. Au municipal, là, ton terrain de jeu pour idéologique, il n'est pas si vaste que ça. Puis actuellement, c'est un parti d'opposition qui est pour le tramway, qui est le plus gros projet polarisant à Québec, qui est plus ou moins pour une espèce de filet social intéressant de développement, mais en gardant tranquille de développement qui n'est pas trop sauvage. Tu sais, les grandes lignes là, sont idéologiquement à s'aligner. Donc, c'est dur de distinguer. C'est pas ce que Pascal en pense là-dessus.
Dur de distinguer, puis ça m'a amené à une réflexion du genre, comment veux-tu continuer à être du côté de la mairie, du moins même dans l'opposition, si tu te ressembles, si ça ressemble autant au parti qui a été élu, puis toi, t'as pas été élu? En même temps, je voudrais pas commencer à se dénaturer pour se faire élire. Fait que c'est sûr que je suis en dualité par rapport à ça, sauf que pour moi, c'est un parti qui va mourir, à moins que le leadership ou la façon de présenter les idées soit plus positive, puis on soit capable de rallier. Si, mettons, c'est un autre chef pour l'instant, c'est là où ça pourrait prendre l'ampleur. Parce que si les gens de Québec veulent le plan actuel de l'équipe qui est en place, mais ont de la misère avec le leadership de Bruno Marchand, ben il y aurait une possibilité de faire entrer un autre parti avec un meilleur leadership et des idées qui sont dans la similitude, disons-le, comme ça, tu comprends? Je marche un peu sur Absolument. Des œufs. C'est rare là, que je vais répondre de cette
mais
manière-là,
non, mais
c'est une analyse, là, c'est...
Mais non, mais la réalité, c'est que c'est vrai. Puis il y a une autre réalité auquel j'ajouterais, parce que j'entends dans ton propos, qu'il y a aussi, à un moment donné, le spectre idéologique. Tu sais, bon, il y a Jackie Smith, on sait, c'est l'environnement, c'est des méthodes, c'est des réflexions beaucoup plus ancrées dans cette dynamique. Ça reste un parti qui, évidemment, elle est seule actuellement au parti, qui est plus axé vers ses convictions. Mais il y a aussi, puis je reviens à Tamanan, est-ce qu'il y a de la place pour un cinquième parti représenté à l'Hôtel de Ville? Tu sais, si jamais Tamanan, parce qu'on le sait pas, là. On sait toujours pas son intention. Est-ce qu'il est en train... On entend tout et son contrat. Il est en train de bâtir une équipe. Il est en train de mousser sa candidature pour devenir le candidat d'un parti existant. Tu sais, tous les scénarios sont possibles encore à l'heure actuelle. Donc, est-ce que véritablement, tu te dis, je pars, là, et moi, je trouve 21 candidatures sur ma, je sais pas moi, équipe AMAD. Puis là, ces gens-là ont à se distinguer de Québec Fort et Fier de Bruno Marchand, de Québec d'abord de Claude Villeneuve, d'équipe Priorité Québec et de Transition Québec, hey, ça fait beaucoup de monde là, dans l'urne.
Okay. Ben, je vais m'avancer, même si j'ai rien pour appuyer ce que j'avance. Donc, on va dire que c'est une hypothèse, Valérie. J'ai l'impression que Claude Villeneuve attend sa mamade pour annoncer qu'il ne se représentera pas comme chef de son propre parti. Et c'est sa mamade qui prendrait ce parti-là. Ils se sont rencontrés plusieurs fois là, avec un groupe d'opposition puis un autre qui veut accéder à la ville de Québec. À un moment donné, on avait même offert à Sam Hamad de la direction générale de la ville de Québec, puis un candidat, que ce soit Stéphane Lachance ou de l'autre côté, là, Patrick Paquet, pourrait aspirer à devenir maire de la ville de Québec avec un Sam Hamad à la direction générale. Moi, j'ai l'impression que ces deux groupes-là, là, le team de Stéphane Lachance versus Paquet, je pense pas qu'ils se soudent à un moment donné ensemble. Il semble y avoir trop de différences entre les deux. Mais ça va être Claude Villeneuve qui va tout simplement céder sa place. J'en suis persuadé. Et ça, ben, l'avenir nous le dira, à savoir qui a tort, qui a raison.
OK. Hey. Précisément, les règlements du Parti Québec d'abord, c'est pas banal ça. L'hiver dernier, ont été modifiés pour faire en sorte que le chef actuel n'est pas systématiquement le candidat à la mairie. Donc, ça ouvrait aussi la porte à une candidature externe.
Il y a des hasards de la vie comme ça, hein, qui arrivent.
Il n'y a pas vu ça.
Ouais.
Fun fact interne à la démocratie, encore une fois.
Oui. Hey, Jeff Gosselin est sorti des Boulamites.
Oui. Hey, on avait hâte de parler. Moi, j'avais un petit peu critiqué pas mal beaucoup son silence en juin lorsqu'il a été nommé au RTC. Puis c'est le maire qui avait parlé pour lui. Et on disait, moi, je me souviens, on disait à M. Marchand, je dis, là, Jeff, il est là, il est dans le building. Pourquoi il ne vient pas nous parler?
Parce que c'est un gars qui est hyper sympathique. Là,
mais oui, il voulait parler.
C'est un jaseux.
Je pense qu'il craignait un peu, parce qu'il m'a expliqué, je me suis assis avec lui lundi, on s'est vu à l'Arena Marc Simoneau, à Beauport, dans le milieu du hockey, c'était pleinement son élément, et Jean-François Gosselin, donc, bien heureuse de le revoir. Moi, depuis 2017, que je m'étais pas vraiment assis face à face avec lui, donc depuis la campagne là, où il venait de créer Québec 21. Et oui, il a expliqué que finalement, non, ben, tu sais, l'idée, c'était que on voulait pas tout de suite le lancer comme ça avec... Il dit, je veux pas commencer à commenter les autres dossiers. Moi, je veux commenter mes dossiers. Là, je suis plus familier avec mon poste au RTC. Évidemment, les sports et loisirs, ça fait aucun doute. Là, depuis son arrivée en politique, on sait que c'est son bague. Mais il y a quand même encore la surprise de voir ce gars qui est converti, en fait. Tu sais, Jeff Gosselin, moi, tu m'aurais dit, ce gars-là, un jour, va accepter ou avaler l'idée d'une taxe sur l'immatriculation. Je veux dire, j'en serais jamais revenu. Il lui explique que c'est une évolution, qu'on est rendu là, qu'il a tenté de plaider à l'interne pour des mesures d'atténuation. T'sais. Fait que c'est intéressant. Il navigue là, il navigue d'un gars qui s'est fait élire en 2021 après une campagne contre Bruno Marchand. Là, il est rendu dans le parti de Marchand, il est rendu au RCC. Il a donné la majorité à Marchand. Alors, il y avait un petit peu quand même à expliquer là, ses parcours des dernières années.
Je vais poser une question qui est aussi désagréable que la grosseur des araignées cet été, je pense, mais...
Oui!
je me demande s'il ne donne pas raison à tous ceux qui criaient qu'il était très, très mou. Et où il a vraiment changé d'avis, là. Mais il y a des gens qui disaient qu'il était dans la politique peut-être pour des raisons du genre « bon, ben, j'essaie la politique, je tente la politique », est parti avec des idées bien en place, mais que la politique l'a rattrapé, le fait que ça soit très ardu, que ce soit difficile, puis il a senti que le siège était plus qu'éjectable, et il a décidé de se ramollir. Des gens qui disaient qu'en entrevue, il l'était, des gens qui disaient que même sur ses enjeux, puis la défense de ses enjeux, il l'était. Est-ce que tu trouves qu'on peut le voir comme ça? Je sais que c'est farouche.
Ben, c'est-à-dire, honnêtement, je pense que personne peut dire, puis honnêtement, en tout cas, en toute authenticité, moi, Jean-François Gosselin, c'est un homme que j'ai toujours apprécié dès son arrivée, et, tu sais, c'était, s'il avait été opportuniste, là, il l'aurait fait avant, là. Je te dirais que c'était pas glamour, là, d'être dans l'opposition à l'Hôtel de Ville, à se faire ramasser par Régis Labombe en 2017 et 2021. Deuxième tentative à mairie, t'arrives troisième, tu te fais dire que finalement, mairie, on veut pas de toi. Tu sais, il a quand même eu, lui, il a fait l'expression, là, notamment pour la période où il était indépendant, là, de traverser du désert. Tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, tu es en politique, tu veux en faire, tu te rends compte que oui, c'est ardu, pour reprendre ton terme, que t'as pas... Puis là, à un moment donné, tu te dis, attends, y a-tu une façon différente de voir les choses? Y a-tu... T'sais, il a fait partie d'un comité, il était encore indépendant quand il était sur un comité du RTC. T'sais, lui, ce qui soutient, c'est de dire, écoutez, mon évolution a été graduelle. Moi, j'ai dit, donc, vous êtes un transfuge qui s'assume, là, du tac au tac. Je suis pas un transfuge, parce que, à ses yeux, transfuge, c'est quelqu'un qui se fait lire sur une bannière puis revire sa veste du jour au lendemain. J'ai été un an comme indépendant, j'ai eu un certain, comme, purgatoire, tu sais, puis après ça, ben, tranquillement, je suis un joueur d'équipe. Tu sais, sous-entendu, c'est sûr, t'es en politique, changer les choses, là. Je veux dire, si t'as aucun pouvoir pis t'en vois pas, là, à long terme, là, t'en vis encore après. Mm. 10 ans, tu sais, c'est à peu près, parce que les gros mots qu'ils ont faits, mettons, dans la deuxième année du mandat, il y avait déjà dans le corps un mandat de 2017-2021. Fait que c'est surprenant, mais moi, je suis moins choqué par ça que quelqu'un qui, le lendemain d'une première élection, saute la clôture, s'en va du côté du pouvoir parce qu'il y a des promesses.
Ben, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai toujours côtoyé là, quand il était en politique. On l'a côtoyé aussi lorsqu'il était... c'était pour l'ADQ. Hein. Il était député de l'ADQ pendant un certain temps.
Oui, 20 mois.
C'est un gars hyper sympathique. Il a eu une belle carrière aussi. Il a eu son entreprise, une entreprise familiale. Il avait une clinique avec sa sœur. Puis par la suite, il a décidé de revenir en politique comme conseiller... Il y a une super de belle carrière. J'ai jamais considéré ce gars-là comme étant un opportuniste. J'ai tout le temps vu ce gars-là comme étant un gars qui trippe sur le sport, qui veut améliorer les endroits pour nos enfants, qui désire continuer à faire du sport. Les patineurs, c'est exactement...
Avec des valeurs de changement, avec des valeurs d'intégration.
Là où ce qui est exactement, là, c'est là que je le voyais quand il m'avait dit qu'il s'en allait à la Ville de Québec.
Ah ouais. Ben, tu vois, à un moment donné, tu peux pas reprocher à quelqu'un de dire... T'as le choix entre être dans l'opposition, confiné. Là, à un moment donné, tu dis, crime, on arrive à travailler ensemble. Je pense que c'est plus facile aussi que Bruno Marchand qu'avec Régis Labombe, là. Moi, il m'a dit de Régis Labombe, je trouvais ça amusant. Il dit, il me tapait tellement dessus qu'il a contribué à ma notoriété. Parce que, tu sais, à un moment donné, être l'opposant d'une personnalité aussi publique, ça te contribue toi-même à te faire connaître, tu sais.
Ouais, parce
mais
que...
ça a été des années difficiles.
À un moment donné, quand tu te fais fesser dessus sans essayer d'en venir plus fort, t'es pas considéré comme un gars qui est capable de se défendre. C'est un peu comme ça qu'on le considère actuellement à Québec, alors que, tu sais, c'est un gars qui est capable de bien s'exprimer et tout ça, mais Régis Labombe était tellement virulent à son égard, il l'insultait constamment. Et moi, j'aurais aimé que Jean-François se lève à un moment donné et il dise « Là, mon petit nain, tu vas te rasseoir, là. »
Ben, il était quand même, c'est vrai qu'il était resté poli, là, ben, avec tout ça, le vrai test, là, c'est un gros cliché que je vais te dire là, mais le test ultime sera celui des urnes. Est-ce que ces citoyens de Sainte-Thérèse-de-Lisieux dans le secteur, dans l'arrondissement Beauport vont lui tenir rigueur, vont dire, ah oui, ça c'est le gars qui s'est présenté en 2021 pour Québec 21, qui a tout lâché. Tu sais, je ne sais pas jusqu'où les gens, surtout municipal, ils se disent, c'est-tu quoi, on le voit, il inaugure des affaires, il s'occupe des patinoires, t'sais. Ça se peut qu'à un moment donné, les gens, ils fassent pas de temps, je vais dire qu'ils sont pas intelligents de voir la distinction, mais tu sais, au municipal, là, tu sais, à un moment donné, la pilule est avalée ici, puis là, t'as le candidat qui est devant toi, moi, je suis certaine qu'il y va. J'ai fini ma chronique, mon entrevue avec une prédiction, là, même si, évidemment, il y a 5 enfants, 49 ans, il est jeune, il se dit, moi, j'aime... pour l'instant, il se représente, tu sais, qu'est-ce qui pourrait arriver, ça va quand même être une décision familiale, mais moi, je pense qu'il y va, puis ça va être le vrai test de voir est-ce que les gens qui avaient voté pour lui parce qu'ils voulaient l'opposer à Bruno Marchand, parce qu'ils voyaient à l'époque, ils voyaient son parti au pouvoir, et là, il a quitté ce parti-là, donc est-ce que sous... une nouvelle bannière, il sera élu, ça va être le grand test.
Oui, puis la dernière fois, je l'ai croisé, je pense que je l'avais reçu dans Marceau soir, il avait dit, tu sais, Yann, fait une couple de fois là, que les gens me disent non pour être maire de la Ville de Québec, donc je vais me représenter comme maire pour être maire de la Ville de Québec. Il est très à l'aise dans ses fonctions actuelles.
Tout à fait. Et il avait démissionné de soi-même de cette soirée électorale complètement folle où Marie-Josée Savard avait été mairesse pendant 20 minutes. Là, que...
Valérie, on te souhaite de passer une belle semaine, on t'en reparle. Hey! Mercredi prochain.
À la semaine prochaine. Et bon combat, Yannick. Je rappelle que c'est les 18 ans de ma filleule.
Ben oui.
Donc, manquer ton combat.
Ben, c'est pas grave.
Je serai avec toi de cœur et d'esprit.
Je vais gagner pour toi.
Formidable.
Salut.
Merci.
Bye-bye. 13h02, vous avez des choses à me dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. On avait-tu des choses à mentionner aux auditeurs pour de notre côté? C'est le Rouge et Or, si je ne me trompe pas.
Exactement, parce qu'on est en pleine saison, oui, de la NFL, oui, du football canadien, mais surtout du football ici, là, dans nos universités. Là.
Tu vas-tu être là dimanche?
Je peux pas. Je suis encore en chalet dimanche.
T'es encore en
Moi,
chalet?
Moi, j'ai décidé de passer mon mois de septembre dehors. Fait que c'est ça. Les bottines ont suivi les babines. Mais
moi, c'est facile, je mets tout le temps ça sur le dos de mes enfants. Je l'écoute à télé.
Ah, ouais. Oh, quand t'es pas là, c'est pas la même réalité.
Non.
Mais ça me manque, j'ai hâte. Surtout que là, en fin de semaine, c'est les Stingers de l'Université de Concordia qui jouent. C'est pas toujours facile, OK, pour eux. C'est certainement pas facile face aux Rouges et Or, mais c'est le fun de voir évoluer ces équipes-là qui en ont mangé un petit peu plus que les autres à travers les dernières années. Fait que ça va être intéressant, Rouges et Or qui affrontent les Stingers.
Le match de 13h, il y a des cartes cadeaux de Laurier Québec qui seront au kiosque de Boulevard avec Max et les autres personnes qui l'accompagneront. Des items à l'image de la station. Pogo, grignotine, tout ça vous sera servi de plus cette année avec Laurier Québec. Bon, on va faire gagner une carte cadeau de 1 000 $ parmi les auditeurs qui vont passer nous voir au Tailgate. Hey. On va vous donner un mot de passe, puis le lundi suivant, vous écoutez la radio et ça se peut que vous soyez finaliste pour justement ce 1 000 $ à gagner.
Parce que le mot de passe qu'on vous donne au Tailgate... Le lendemain, dans Marceau le midi, on vous dit c'est l'heure de l'inscrire par texto. Fait que c'est pour ça que vous le gardez dans votre petite poche. Mais c'est quand même bizarre que tu aies mis Max Larouche, Pogo et Grignotine trop rapprochés. Là.
Oui. Ouais,
le snack, c'est le 1 000 $ à Laurier Québec.
OK. Voilà. Achetez vos billets au rougeor.ulaval.ca. On se voit au tailgate, les amis.
Marceau le midi.
Hey, c'était bon, ça.
Qu'est-ce qui était bon?
Ah, oh, j'en ajouterais tellement. Parce que tu dis tout le temps que les auditeurs, ce sont tes boss, hein?
Oui, madame.
C'est eux les boss. Hey. Et la direction a passé un message aux auditeurs qui sont tes boss.
Mm-hmm.
Comme quoi, ce serait bien que tu lises tes courriels, que tu répondes aux textos.
Ce qui est encore le plus weird, là, Pascal, c'est que cette production-là roule depuis le début d'août.
Oups! Je t'entendais. Yannick, ça veut dire que je travaille fort dans les coins.
Ouais.
C'est ça l'important.
Parlant d'un autre qui travaille fort dans les coins, c'est notre chroniqueur international, Louis Gauthier, qui est en Ontario actuellement. Salut, Louis.
Hey, bonjour, Québec.
Très content de te jaser, mon ami. Tu roules beaucoup, toi. C'est-tu vrai qu'il y a une grosse différence d'asphalte entre l'Ontario et le Québec? Là? C'est une différence marquée, là?
Bien, je te dirais que tout le monde a mis la main à la pâte parce que là, on est en train de faire des travaux routiers, que ce soit en Ontario, dans l'État de New York, la 81, la 95, la 401. Mais Québec, ce qui m'impressionne toujours depuis les 25 dernières années, c'est le pont de l'île aux Tourtes dans l'ouest de Montréal. On est toujours en construction dessus. Si on pense que ça va coûter 1,2 milliard pour faire le pont de l'île d'Orléans, vous seriez très surpris de savoir comment ça a coûté de réparer, d'entretenir le pont de l'île aux Tourtes depuis 20 ans.
Ah ouais, il y a une grosse facture.
Oui, nos taxes rapportent pas dans ce cas-là.
Ouais, ça roule-tu bien aux États-Unis? Qui sont les meilleurs conducteurs? Est-ce que c'est les Américains, c'est-tu les Ontariens, c'est-tu les Québécois?
Je vais répondre à cette question-là, Yannick, que si je faisais passer les permis de conduire à 10 personnes de ton choix, ben les routes seraient un peu plus désertes.
À ce point-là?
Oui.
C'est quoi, oui, tout le monde conduit?
Non, c'est très sérieux, Yannick, ce que je dis. Si je vous demandais de repasser vos cours de conduite, il y en a un sur deux qui ne passerait pas.
Ouais. Mais c'est surtout l'interprétation des panneaux. On dirait qu'il y en a qui oublient ça. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait un stop, t'es supposé entrer sur l'autoroute, t'as un triangle rouge à l'envers. Ça, c'est un genre de céder le passage. Donc, mm-hmm. tu dois adapter ta vitesse pour être capable de t'immiscer dans la circulation. Il y a des gens qui font des stops. Ils paniquent carrément, puis ils font des stops. Mais imaginez-vous le chauffeur de van qui est en arrière de vous, là, qui transporte plusieurs
milliers... 80 000 livres de charge.
80 000 livres. Lui, ça y prend son swing pour embarquer sur l'autoroute. Route, là. Donc, si vous lui faites faire un stop, là, sa journée est un petit peu plus difficile.
Mais ce qui est particulier, tu parles des stops, mais on ne parle pas des signaux avancés annonçant le stop, annonçant des travaux, annonçant peu importe quoi. Tu n'as pas idée le nombre de biais d'infraction qui vont se donner en zone de construction. Parce que j'en ai passé à peu près 7, et sur les 7 depuis hier, là, sur la 81, il y a eu à peu près pas loin de 3 à 5 amendes qui ont été données.
C'est doublé dans ce secteur-là, je ne me trompe pas, là, quand tu es sur un chantier de construction puis tu as une amende.
Oui, aux États-Unis, c'est pire si tu n'as pas une plaque d'immatriculation qui vient de l'État au-dessus.
Louis, il y a des gens qui nous écrivent que les pires conducteurs, on les retrouve, du moins du Nord, là, c'est en Virginie du Nord. Puis là, j'ai fait un genre de copier-coller sur Google. Puis ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, les conducteurs de Virginie sont les deuxièmes pires du pays. Mais t'es-tu d'accord? Pourquoi est-ce qu'on mène à des sondages à savoir qui conduit mal, le plus mal? Comment est-ce qu'on le comptabilise? C'est par nombre d'infractions?
Bien, je te dirais que c'est pas loin derrière la Pennsylvanie. Parce que c'est surtout le secteur de la 81 dont je parle. Les gens vont le savoir. Là, lorsqu'on traverse en Ontario, on prend la sortie 661. Sur la 401 ouest. Puis là, ça nous amène sur la 81 qui descend pratiquement jusqu'à Nashville dans le Tennessee ou pas loin du Tennessee, à tout le moins dans le Kentucky. Puis, il y a des zones sur la 81 où il y a des changements de vitesse assez fréquents. Tu passes de 70 à 55, tu reviens à 65, tu redescends à 45. Puis les gens, surtout, tu as beaucoup d'axes routiers en Virginie qui amène vers la colline de Washington. Donc, Alexandria, tout ce coin-là, Washington, juste avant Richmond, je te dirais Fredericksburg, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui restent dans les terres. Pareil comme si on était à Québec, puis on restait au lac Beauport, on restait à Pont-Rouge, on restait dans Bellechasse. Ça converge tout le monde. Donc, les gens ont hâte de rentrer. Puis, tu as des capitales, comme la capitale de la Pennsylvanie, est pas loin de là, c'est Harrisburg. Donc, de la route, la 78 qui arrive, il y a beaucoup de trafic dans ce secteur-là. Puis oui, ça se cogne, puis ça arrive souvent que des voies fermées.
Moi, j'ai été en Californie, puis ce qui m'avait marqué, Louis, c'était à hauteur de San Francisco, sur les autoroutes. Bon, les véhicules, on était dans le trafic, mais si tu avais une moto, tu pouvais rouler sur les lignes pointillées. Puis j'ai vraiment trippé à rouler sur les lignes pointillées à moto parce que tu rentres plus vite en ville, puis tu n'as pas besoin d'attendre en arrière des autres véhicules. Mais je me suis passé à réflexion, si jamais ça arrivait, ça, au Québec, là, ça serait impossible à instaurer. Là. Les jeunes nous barreraient la route parce qu'ils sont jaloux, parce qu'on peut passer ces lignes pointillées.
Avant de penser à faire passer des motocyclettes sur les motocyclettes sur les pointillés à Québec, il faudrait commencer à céder le passage aux piétons qui traversent la rue, comme ça se fait partout dans le monde. Les automobilistes, ça arrive, à la minute qu'on voit quelqu'un sur le trottoir qui s'engage sur la route, on met les freins pour laisser passer les gens.
Les clignotants.
Au Canada puis aux États-Unis.
Les clignotants, il ne faudrait pas que ça soit optionnel. Juste hier, là, j'ai rêvé d'avoir une caméra sur ma fenêtre avant de char, là, le temps de me rendre de la station à chez nous. Il y a eu 3 à 4 choses qui étaient invraisemblables qui sont arrivées, puis je trouve que c'est de pire en pire. Ce matin, moi, j'ai un embranchement dans mon coin où il y a quelqu'un qui arrive de l'autoroute, qui prend la sortie d'autoroute puis qui n'a pas d'arrêt-stop à faire. Fait qu'il faut le savoir, il faut être conscient, mais ça peut être dangereux, je comprends. Mais il y a une personne qui a fait un stop puis qui comprenait rien puis continuait. Fait que là, ça a mêlé tout le monde. C'est constant. Je trouve que c'est pire. Puis je me suis dit, j'en parle ça en nombre ou je vais avoir l'air chialeuse, mais je trouve que c'est pire depuis les 2 dernières années. Je sais pas si les gens qui ont moins conduit en pandémie, ils ressortent, ça fonctionne. Mais il y a vraiment quelque chose qui, je trouve, qui est arrivé.
Pascal, c'est parce qu'il y a un autre facteur qui est arrivé. On a beaucoup de nouveaux arrivants au Canada. Puis eux, autre que d'avoir une licence commerciale comme j'ai, ils doivent suivre un cours particulier. Mais lorsque tu as un permis de classe 5, comme le commun des mortels en a, eux ne font seulement que changer et passer un examen théorique. Mais ils font ça dans un temps record. Ils n'ont pas le temps de connaître tous les aléas de la route ou les attitudes à connaître sur la route quand ils viennent de pays européens. C'est la même chose que si nous, on va prendre une auto puis on se promène, on part de Paris pour aller vers Nantes, exemple, sur l'autoroute. Bien, il y a d'autres signes qui existent qui sont similaires aux nôtres, mais on ne les assimile pas tout de suite. Donc, pour les gens qui arrivent chez nous, c'est la même chose. On fait des stops, on ne sait pas où on va. On signale à gauche pour tourner à droite. Tu sais, il y a beaucoup de nervosité qui arrive quand on conduit dans des villes qu'on ne connaît tout simplement pas.
Louis, on va passer à l'international, oui. Mon ami, si tu le veux bien. On parle encore d'Israël. Est-ce qu'il y a du développement là-bas?
Bien, écoute, là, il y a encore des attaques. Là, on voit qu'on s'attend à une attaque terrestre d'Israël vers le Liban. Mais la question que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pourquoi Israël ne lâche pas le morceau? Bien, c'est peut-être une vieille dispute qui existe depuis plus de 50 ans. Il y a 50 ans, à l'époque, la première ministre en Israël était Golda Meir. C'est une des fondatrices de l'État d'Israël. De 48, elle était là. Ça commençait à se parler parce qu'on commençait à voir les défis à relever avec l'Organisation de la libération de la Palestine qui voulait avoir un État qu'on connaît aujourd'hui comme un peu la bande de Gaza. Et il y avait quelqu'un qui émergeait à ce moment-là qui s'appelle Yasser Arafat. Là, ça a commencé à péter. On a eu des guerres, on a eu des conflits sur le bord des frontières, l'Égypte s'en est mêlée, jusqu'à temps que l'année suivante, ça soit Yitzhak Rabin avec son parti travailliste qui était très populaire en Israël, prend la relève du gouvernement de Golda Meir, et on a Jimmy Carter qui devient président des États-Unis. Jimmy Carter, on le connaît, toujours vivant aujourd'hui, pratiquement 102 ans, a été l'un des peut-être meilleurs négociateurs qu'on n'a pas connu dans le monde diplomatique. Et lui, il a commencé des négociations de paix entre l'Égypte, Israël, et dans le but de former ou de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec l'OLP. Ça a connu son dénouement en 1994, quand Yitzhak Rabin, n'étant plus premier ministre, est devenu un attaché spécial de Shimon Peres, qui était le premier ministre, et Yasser Arafat, qui ont convenu avec Bill Clinton, qui était président des États-Unis à ce moment-là, de céder un territoire. Le territoire est finalement ce territoire de la bande de Gaza qui vient jouer un peu avec le sud-ouest d'Israël et la frontière de l'Égypte. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, c'est en plein territoire qui est en conflit, qui a amorcé le conflit actuel, qui va faire un an le 7 octobre prochain. Donc, tout le monde tape des mains, tout le monde est content. Yasser Arafat promet de ne pas faire de conflit armé. Shimon Peres promet de reconnaître ce territoire-là maintenant comme un État appartenant à la Palestine. Et tout le monde est nommé pour le prix Nobel de la paix cette année-là. L'année d'après, Yitzhak Rabin est assassiné avec deux balles dans le dos à Tel Aviv lors d'une manifestation ou de quelque chose pour la paix qui s'est fait à ce moment-là. Ça veut dire qu'à l'époque où on a cédé le territoire, c'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Et ce territoire-là a tout le temps été une zone de conflit entre l'État hébreu et l'État musulman. Et là, bien, ça a pété l'an passé, justement pour ce territoire-là. Et pourquoi le gouvernement israélien ou l'État hébreu est en train d'attaquer sa frontière nord du sud Liban? C'est justement pour éradiquer une fois pour toutes ces menaces d'attentats. Donc, vous voyez que ça remonte à très longtemps. Mais qu'est-ce que ça nous dit en même temps, Yannick et Pascal? Ça nous dit tout simplement que lorsqu'on cède un territoire, la tête du chef qui a signé ça est mise à prix. Puis c'est ce qui risque d'arriver en Ukraine parce que Volodymyr Zelensky, avec son plan de fin de conflit, prévoit une cession de territoire. Puis c'est jamais passé dans l'histoire que ton chef d'État d'un pays qui cède pour avoir la paix passe auprès de la population.
Tu as l'impression qu'on pourrait essayer de le canceller, c'est ça?
C'est écrit dans le ciel.
Ah oui?
Oui, si jamais il y a une cession, parce qu'écoute, l'Ukraine a passé par une cession en 2014 de la Crimée. Là, on est en train de regarder le Donbass qui est en train de passer à l'autre. Lui, ce que Zelensky a fait, c'est plus au nord, la petite ville de Koursk, en territoire russe. Lui, pour lui, ça a une importance économique de haut niveau, en raison de ce que je vous expliquais la semaine dernière, le fameux pipeline Nord Stream 2 qui passe dans ce coin-là, puis on aurait accès. Donc, lui, ça serait comme un prix de consolation s'il y avait ça, mais est-ce que ça va passer le test auprès des Ukrainiens qui ont perdu beaucoup de membres de leur famille dans ce conflit-là, qui ont perdu beaucoup d'argent, que les taux d'inflation pètent dans le plafond au 7e étage. Tu comprends? Ils risquent d'avoir la même chose qu'on a vu il y a plusieurs années dans la cession du territoire de cette petite parcelle de terre-là de la bande de Gaza. Ça ne part jamais bien dans l'histoire des pays qui ont cédé du territoire au profit d'un ennemi voisin.
Pour ce qui est d'Israël avec son Mossad là, qui nous a montré qu'il existait encore bel et bien dans les derniers jours, as-tu l'impression qu'il va y avoir une grosse vengeance de la part du Hezbollah? Est-ce que le Hezbollah a les moyens technologiques pour essayer de créer un impact aussi fort que celui que les agents du Mossad ont créé en faisant exploser des milliers d'agents du Hezbollah?
Écoute, là, présentement, je dois dire que le Hezbollah en a mangé une sincère. OK? Et la façon dont l'armée israélienne intervient, c'est justement pour éradiquer. C'est le même modus operandi qu'ils ont fait sur la bande de Gaza. Donc, la menace va venir, mais ne viendra pas du Hezbollah, ne viendra pas du Liban. Elle va venir d'un pays comme l'Iran qui finance tout, et même le Yémen qui est prête, qui a une équipe B pour intervenir, qui sont habitués à faire des coups sournois de terrorisme.
Parce que c'est génial là, ce que le Mossad a réussi à faire. Mais ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de créer un aussi gros impact de l'autre côté? Je veux dire, ça peut pas faire autrement que nous laisser craindre le pire. Je veux dire, s'ils sont capables de nous atteindre avec les appareils technologiques, là, je veux dire, on est entouré d'appareils technologiques. Là.
Mais là, c'est pas la première fois qu'on s'en rend compte. Là. Je veux dire, ouais, ça fait des années. Tu sais, juste que toi, tu trouves que c'est frappe au visage.
Une opération comme ça, les agents du Mossad ont frappé fort. Là. Ils ont tout détruit. Là. Je veux dire, c'est la hanche qui part, Pascal. Là. C'est le Padgett qui est là, qui explose. C'est la hanche qui part. Les gars, ils pourront pas travailler pendant une couple d'années. Puis il y en a qui vont arrêter de travailler tout simplement. Là.
Mais tu sais, je veux dire... Tu vois ce qui se passe, tu lis les trucs à l'international, tu te rends compte que c'est ça. Puis la prochaine guerre, elle sera hautement technologique, du genre aussi centrale électrique et autres. Et on s'est rendu compte, entre autres aux États-Unis, que la Chine est dans des systèmes informatiques prisés gouvernementaux depuis des années maintenant. C'est des choses qui sont bien au-devant de nous. Le Padgett, pour moi, ce serait juste une découverte... très, très usuel là, de ce qui pourrait être dans les prochains conflits de guerre.
Aujourd'hui, je vous ai parlé, Pascal et Yannick, de deux générations, parce que 50 ans, tu as deux générations là-dedans. C'est quoi la différence entre les deux générations? Pourquoi aujourd'hui on en parle tant? Pourquoi on craint plus? Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé à l'époque de la guerre froide. La guerre froide existait, c'était entre l'Est et l'Ouest. On savait ce qu'on pouvait s'attendre du Proche-Orient, on savait ce qu'on pouvait s'attendre du Moyen-Orient, parce que tu avais les pays de l'OPEP qui contrôlaient le pétrole, puis les forces occidentales devaient intervenir pour être sûres de contrôler les prix. Et autant du côté soviétique à l'époque, qui était du côté de l'Est, on se tenait. Et la Chine était très fermée, parce que c'était la Chine de Mao Tse-Tung à l'époque. Donc, le fameux livre rouge, si vous allez lire ça aujourd'hui, vous allez comprendre, c'était un empire à l'intérieur du communisme, très fermé, on ne savait pas trop ce qui se passait, même que les Corées ne bougeaient pas, même que Hong Kong savait un jour qu'elle allait tomber là-dedans, parce qu'elle a été rétrocédée en 1997 par le gouvernement britannique à la Chine. Donc, tout le monde se tenait tranquille, sauf qu'on savait ce qui se passait au niveau de la guerre froide, c'était ce fameux rideau qui séparait Berlin en deux, qui déterminait qui était du côté Est et du côté Ouest. Aujourd'hui, ce rideau-là n'existe plus, mais on se trouve qu'il y a 40 % plus de pays qu'à la Deuxième Guerre mondiale, et en raison des moyens d'information, la technologie, on est au courant, puis oui, il faut craindre. Parce que la preuve, les services secrets américains interviennent auprès, là, le Congrès a voté pour que Donald Trump, qui est un candidat à la présidence pour les Républicains, est la même protection que Joe Biden, qui est président présentement. Donc, on est en train de dire que les anciens présidents doivent avoir la même protection, même s'ils ne sont plus en fonction. C'est ce que ça veut dire. Et les services de renseignement ont informé l'équipe de campagne de Donald Trump qu'il y avait des menaces sérieuses d'atteinte à sa vie provenant de l'Iran.
Il va-t-il y avoir une troisième tentative sur Donald Trump? On se le souhaite pas. En fait, on lui souhaite pas. On va dire ça comme ça. Juste revenir un peu sur l'âge de Jimmy Carter.
Il y a autant de chances qu'il y ait une troisième tentative qu'il y a des nids de poules au printemps prochain.
Ouais. Mais on souhaite que ça arrive pas. OK. Hey, On va se... Il y a une petite coquille qui s'est glissée tantôt pour ce qui est de Jimmy Carter, parce que de mémoire, il n'était pas encore centenaire. Là. Tu vois, tu me dis 102 ans.
Il n'est pas loin d'être là.
Il va avoir 100 ans le 1er octobre.
C'est ça.
Puis il est encore président. Je veux dire, quand tu es élu président aux États-Unis, puis tu fais ton mandat, tu es président jusqu'à la fin de tes jours. Fait que lui aussi bénéficie d'une protection.
Oui, bien lui, présentement, il est au CHSLD, là. Puis il y a quand même un président comme lui, il y a à peu près 3 agents des services secrets qui s'en occupent.
Ça doit être assez tranquille au CHSLD pour les agents. Là.
C'est très, très tranquille. Puis je dois t'avouer que s'il y avait encore toute sa tête, Jimmy Carter, il y a encore les présidents puis des conseillers au niveau de la sécurité internationale qui iraient le voir parce qu'il passe jusqu'à maintenant comme étant la personne qui a été capable de contrôler l'échiquier mondial au niveau de la diplomatie.
Roselyn Carter est décédée.
Elle est décédée.
C'est l'an passé, je pense. Ça fait pas si longtemps que ça. Ils ont eu quand même une belle vie, on va se le dire.
Ah, les peanuts, ça te garde jeune longtemps.
Ah, parle pour
toi. Parce que la famille Carter, c'est une famille d'arrachés et tout ça dans les Carolines.
Exact. Salut, Louis Gauthier.
Hey, bonne journée tout le monde.
Merci. Bye-bye. L'excellent Louis Gauthier. Non, moi, ça m'a fait triper, ça, le coup que le Mossad a fait aux terroristes du Hezbollah, de les faire exploser avec leurs padjets, ça m'a fait halluciner. Puis de voir à quel point il peut y avoir des grosses épées au travers de ça qui ont traîné, qui n'ont même pas pensé ouvrir leur CB qui leur avait été fourni par leur groupe de terroristes. Ils n'ont même pas ouvert le CB.
Je pense pas que je l'aurais ouvert. Moi, je pense que j'aurais abandonné.
Aussi, ben oui.
Parce que ouvrir, mettons, j'aurais peur qu'il me pète dans la face en ouvrant le premier capot de plastique.
C'est le bon réflexe, là, tu sais. Je veux dire, tu te fais pogner avec le padjet. Je sais pas, moi, tu l'as laissé, tu voulais aller prendre ta douche, tu l'as laissé sur le comptoir, ça explose, t'apprends que tous les autres agents, comme toi, du Hezbollah, leur padjet a explosé. Mon premier réflexe, c'est de m'éloigner de toute la technologie qu'on m'a offert.
Ouais, parce que tu dis, admettons qu'ils pensent qu'on n'avait pas notre padjet sur nous à ce moment-là. Est-ce qu'ils ont caché ça ailleurs pour être certains de pas manquer leur coup?
Ben oui.
Mais en tout cas, cette guerre technologique-là me fait encore plus peur et m'intéresse encore plus pour des raisons de curiosité par rapport au web.
Ah oui?
Oui. Au-delà de tout ce qui est appareil explosif sur des appareils.
All right, vous avez des choses à nous dire sur le 418-971-101.
Ne stressez pas, là.
Non, non.
Tu sais, on veut pas vous stresser.
C'est quoi le padjet que tu m'as donné? Hein? Ray Red Hot! What